Nous sommes mercredi 22 septembre 2021. Cliquez, bande de salopes, c'est le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous. Pas à ce niveau-là. Bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Ta mère.
C'est parti. Bonsoir Mecton.
Chaud patate.
Chaud bouillant. Bonsoir Otix.
T'inquiète frère, on a la patate. Et si c'est cligné en cours.
Très bien. Je vois que l'ambiance est mise, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en podcast. On est très contents de vous retrouver. Nous allons être obligés de conjurer le mauvais sort. Voilà, au programme de cette émission. Alors, c'est une émission qui est franchement fourre-tout. Hein, on va quand même pas se cacher.
La touche est sède.
Putain, le niveau ce soir est très élevé. C'est donc une émission extrêmement fourre-tout ce soir, puisqu'on va parler de tout ce à quoi on a joué cet été. Vous allez voir que on a joué à plein de trucs parce qu'on avait le temps.
Enfin, sauf du direct, lol.
C'est pas gentil. Voilà, mais nous allons commencer tout de suite avec un petit traditionnel tour de table de l'actu qui va être un peu réduit. Hein. Vous vous excuserez, on a essayé de condenser un petit peu. Je vais commencer par Mecton, puisque tu fais le malin.
Attends, c'était quoi, moi ? Oui. Alors, récit de l'après-midi. Bienvenue dans les coulisses. 14h58, Mortal envoie le conducteur de l'émission de ce soir, parce que c'est une émission.
C'était quoi le dernier mot ? J'ai pas entendu.
Réalisé par des professionnels. N'essayez pas de reproduire ça chez vous.
Exactement. Ce conducteur est réalisé par des professionnels.
Une heure après. Le conducteur est réalisé. C'est pas mal.
Une heure après, donc nous sommes 15h58. On balance le tweet pour vous inviter à venir déconner avec nous. 2 minutes après, Nintendo annonce le direct pendant 2 jours.
C'est dégueulasse. Je tiens à préciser que. Moi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais par terre. C'était plus possible. C'est vraiment. Ils le font exprès, c'est quand même.
On est d'accord, c'est pas une malédiction, c'est un complot.
Mais alors, ceci dit, le bon côté des choses, c'est que si jamais on annonce un dojo bar et qu'il n'y a pas eu de direct depuis un moment, il y a une petite chance qu'il y ait un Nintendo Direct. Et ça, c'est pas mal en vrai.
Ça s'appelle faire une chiaise.
Faudrait qu'on les annonce pour de vrai la prochaine fois. Franchement, c'est Nostradamus, là, on l'aurait. On était dedans, quoi. Bref, donc oui, c'est une malédiction, mais ça fait que. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'on a un conducteur qui est quasiment tout prêt pour la semaine prochaine, du coup. Enfin, pendant deux semaines.
Tout prêt, ça se trouve, il y aura 3 jeux. Hein.
Oui, mais bon, on sait qu'on aura forcément des choses à parler, on sait qu'il va y avoir du Metroid Dread. Voilà, il va y avoir une grosse promo probablement pour Metroid Dread, puisque c'est le gros jeu. De la fin d'année, alors sauf s'ils annoncent un truc complètement fou pour Noël, mais ça me paraît un peu douteux.
Je sais pas, un Xeno 3 derrière les fagots, pourquoi pas.
Pourquoi pas, mais voilà.
Il y a des rumeurs effectivement sur Xeno 3 qu'on pompait pendant les vacances, comme quoi ce serait une espèce de condensé de tout Xenoblade 1 et 2. Et ça a été balancé par la doubleuse de Melia. Dans le premier Xenoblade, qui apparemment a été rappelé pour du doublage, la doubleuse anglaise, qui a été rappelé pour du doublage récemment. Alors, et j'imagine que c'était pas pour Definitive Edition. Elle était un peu en mode, attendez, j'ai le droit de dire qu'il y a un nouveau Xenoblade qui va sortir.
Alors, par contre, si c'est annoncé, ça m'étonnerait que ça sorte pour cette fin d'année. Là, je pense que le calendrier de fin d'année il va être pas verrouillé.
Il y a peut-être encore
une petite surprise, mais ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de choses à part Metroid Dread.
Je pense que là de toute façon il est verrouillé parce que il y a des jeux jusqu'à fin novembre, il me semble.
Alors je vois pas Metroid Dread, c'est tout début octobre. Pokémon Unite. Pokémon.
Non, le remake.
Il y a les remakes et t'as Arceus en janvier et sachant que t'as aussi Shin Megami Tensei 5.
Oui, donc il est verrouillé le calendrier.
Le planning a priori il ira pas plus loin.
Attends, qu'est-ce qui reste à piquer de la Wii U?
F-Zero.
Xenoblade X.
Ah, oui. Xenoblade X.
Joli.
Ça pourrait. Ça pourrait. C'est vrai que là, ce serait vraiment un des derniers, parce que là, il n'y a plus grand-chose.
Il y a Star Fox Zero aussi.
Ça a coupé.
Donc, on va y aller. Voilà, donc, bon, en soi, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Je vais laisser Monsieur Zergy parler de Blizzard et de notre grand ami Bobby Kotick.
R guillemets.
Ça a été un peu le feuilleton de l'été, mais depuis... Alors, ça a commencé en juillet, je crois.
Oui.
Ça a continué tout l'été. Blizzard, au début, a été poursuivi par l'État de Californie pour des problèmes de conditions de travail, de mémoire. C'était un truc comme ça.
Ah, mais il y avait même des histoires de harcèlement, dont un qui a mené au suicide. Enfin, en fait,
oui, c'est ça, conditions de travail, harcèlement. Et au fur et à mesure, c'était... tu sais, l'oignon, tu retires une couche, il y en a encore une autre. T'avais du caca... T'avais plusieurs couches de caca.
Plusieurs couches de moisi.
Sacrément pourri ton oignon. Hein.
Putain, oui. Donc effectivement, ça...
Le millefeuille à la merde.
C'est un très bon résumé. Hein.
Comme disent nos amis américains, c'est un grand sandwich à la merde et on va tous en croquer un gros morceau.
Et ça encore continue aujourd'hui puisque t'as... alors, il y a l'ancien... Enfin, t'as le directeur de Blizzard, je sais plus comment il s'appelle, moi je le surnomme Brakmar, qui s'est barré. Et aujourd'hui, t'as genre la personne qui gérait la partie juridique de Blizzard qui s'est barrée. Ils sont tous en train de se casser.
Ils sont tous en train de se casser. Bah, tu les rats quittent le navire. Hein. Je veux dire, les gens qui pourraient potentiellement
ça
être impliqués.
Ça sent très mauvais pour Blizzard.
Alors, Blizzard, ça sent mauvais, mais en fait, ça sent mauvais pour Activision de manière générale, puisque.
Oui, Bobby a été convoqué devant le juge.
Voilà. Bobby a été convoqué. Donc je pense que Bobby va en prendre plein les fesses, hein, et globalement, si Bobby en prend plein les fesses, nous on sera derrière pour applaudir.
Parce qu'il n'y a pas que les histoires de harcèlement, apparemment il y a même eu des... alors j'ai goûté vite fait l'émission de Gamekult, mais ils en ont parlé, et apparemment il y a même eu une volonté de la direction de museler toute contestation des salariés, avec notamment des mesures anti-syndicales. Un truc très classique aux États-Unis, hein. Puis même en France dans certaines entreprises.
J'imagine le slide des guignols, tu sais. Le mec de la World Company qui... Putain, catastrophe, ils se sont syndiqués.
Ou Ernest Antoine de Célière dans les guignols.
Oui.
Je vois très bien, oui, très bien de qui je parle, c'est pour garder les guignols depuis les années 2000. Là.
Tout à fait. Bref, donc on espère que Bobby Kotick se fasse sodomiser par son propre bras. Ça, on le souhaite tous, hein, je veux dire, de manière générale. Mais on espère surtout que la vérité éclatera et qu'il y a un certain nombre de mauvaises pratiques et autres qui seront exposées au grand jour pour que ça change. C'est ouais. Surtout ça.
Ce qui me permet d'ajouter et que ça tombe sur les bonnes personnes. Ce genre de truc a tendance à éclabousser
un peu. Ouais.
Oui, généralement, les mecs qui sont tout en haut et qui en ont rien à foutre, ils restent et c'est les mecs d'en dessous qui dégagent, quoi, histoire de faire un symbole. Ce qui est super intéressant avec cette histoire aussi d'Activision, c'est que, bon, déjà, je parlais de méthode anti-syndicat aux États-Unis, mais c'est via un syndicat notamment qu'il y a eu du mouvement chez Activision. Et en plus, il y a eu un gros soutien des joueurs sur World of Warcraft. Donc, c'était à l'époque où ça a été révélé, là, les histoires de mauvaises pratiques d'entreprise. Où d'habitude, ce genre d'affaires, au mieux, les joueurs s'en foutent, au pire, ils sont en train de dire aux développeurs d'aller plus vite parce qu'ils veulent Diablo 4. Ou insérer le jeu de votre choix. Et là, en fait, il y a vraiment des employés, enfin des joueurs de World of Warcraft qui ont fait une manif pour manifester leur soutien aux
en
employés
jeu,
de Blizzard.
En jeu,
directement okay. Dans le jeu, ouais. Il y a eu un truc comme ça. Il faudrait le retrouver, mais c'était à peu près à cette époque-là et c'était pour ces raisons-là. Ce qui est assez inédit parce que c'est vrai que. Il y a toujours eu des manifestations de World of Warcraft, mais des joueurs qui commencent à s'intéresser aux conditions de travail des mecs qui font les jeux, en fait, c'est quelque chose qui est assez rare et ont plutôt une tendance à aller sur du jeu des insultes quand le jeu est à la bourre ou qu'il marche pas.
Ouais, c'était pas une manif pour des loot pourris, mais ça
voilà, change. Voilà, il y avait un truc qui était vraiment on vous soutient chez Blizzard, ce qui est plutôt cool.
Ouais, ça a dû leur faire plaisir.
Clairement.
Là, je pense que oui, ça doit quand même te toucher un petit peu quand tu te rends compte que la situation de merde dans laquelle soit toi tu es, soit tes collègues sont, comment dire, tu as une certaine solidarité de la part de tes clients.
Un petit soutien moral.
Oui, c'est le bon terme. Hein.
C'est pas grand-chose, mais je pense que ça doit quand même te renforcer dans ton idée que tu vas plutôt dans le bon sens.
Oui, et puis en plus, d'un point de vue... D'un point de vue des execs de Activision Blizzard, bah, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, bah, ils n'ont pas forcément leurs clients derrière eux, quoi.
Exactement. Et c'est en fait ça qui fait le plus mal dans ce genre de cas-là. Hein. Faut taper au portefeuille. Hein. Faut être très clair. C'est soit la réputation, soit le portefeuille qu'il faut taper quand on veut arriver à toucher des grosses boîtes comme ça. Voilà. Alors après, le problème, c'est combien de temps ce genre de choses-là peut tenir.
Je sais pas. Diablo
depuis...
2 sort demain. Hein.
Depuis un bon moment, parce que t'avais Medzen qui s'est barré de Blizzard en 2016, il dit que effectivement ces comportements-là existaient depuis un certain temps.
Ouais, donc bon. En tout cas, on souhaite bon courage aux employés d'Activision de par le monde, Activision France notamment, qui est pas loin de chez moi, tiens d'ailleurs.
Mais ils n'existent plus de mémoire, non ?
C'est ça ?
Ah non, c'est Activision, c'est Blizzard.
Moi, j'ai Blizzard France juste à côté de chez moi, donc voilà.
Mais Blizzard France, ils n'ont pas fermé ?
Non, c'était le studio à Versailles.
Ah !
Ouais. Alors, je sais pas ce qu'ils font, en fait. Ils font peut-être juste simplement les doublages et les versions
françaises. Sûrement la localisation.
Hein, ouais. Voilà.
Et le marketing.
Oui, très probablement. Très probablement. Voilà, donc j'enchaîne avec une très grosse archive qui a été release par les gens d'un site qui s'appelle Hidden Palace. Et c'est une des plus grosses archives de jeux non sortis, donc des prototypes, ou des jeux qui étaient en pré-bêta, ou même en alpha, ou même des jeux qui ne sont jamais sortis du tout, sur Xbox et Dreamcast. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui font de la conservation du jeu vidéo, puisque là on a des versions inédites de jeux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeux qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout sortis, et on a tout un tas de versions prototypes, de versions presse et autres, qui ont été lâchées dans la nature, et qui fonctionnent pour la plupart sur les émulateurs Xbox, notamment XMU, et sur les émulateurs Dreamcast, qui sont bien connus maintenant, genre j'ai plus de noms en tête, mais l'émulateur Dreamcast doit y en avoir deux ou trois qui marchent correctement. Voilà, donc, alors ruez-vous dessus, peut-être pas, quand on dit 300 jeux, vous attendez pas à avoir 300... jeux complètement différents, c'est-à-dire qu'il y a par exemple 5 versions du même jeu à différents stades de développement, mais c'est toujours très intéressant à voir, notamment de voir l'évolution de ce genre de jeu-là, justement, où la physique n'est pas tout à fait au point, comment dire, les menus sont pas encore tout à fait au point, les affichages tête haute sont pas encore tout à fait au point, et ainsi de suite, donc c'est assez rigolo à voir, et il y a quand même quelques inédits qui valent le coup, et notamment un monsieur qui a découvert Luigi, qui donnait le départ dans Sega GT sur Dreamcast.
Ouais, c'est fou, ça.
On ne sait pas pourquoi. Et apparemment, c'est exactement le mode. C'est pas un modèle de Luigi qui a été refait pour ça. Hein. C'est pas, voilà, ils ont importé le modèle de Luigi de Super Mario Party. De Mario Party sur N64. Donc la question étant, pourquoi? Comment? Comment on en est arrivé là?
Il y a des gens qui kiffent Luigi chez Sega.
Et je pense que c'est ça. Mais ça explique beaucoup de choses concernant la qualité des jeux Sega.
J'allais dire qu'ils fantasment.
Oh, c'est pas gentil. Alors, d'ici à ce qu'on trouve...
Luigi a été élu personnage Nintendo le plus sexy. Hein.
Je ne veux pas voir de furry porn entre Luigi et Sonic. Pitié.
Ah bah alors, je ferme l'onglet alors.
Voilà, pitié, ne faites pas ça. Je vais laisser Zergy enchaîner avec des petites nouvelles de notre grand ami Carl Jobs qui fait de plus en plus de choses de plus en plus intéressantes. On en a parlé un petit peu l'an dernier du marché du jeu vidéo sous blister quand on a fait effectivement notre grand triptyque sur la collection.
Bon, l'an dernier, c'était avant les vacances d'été, quoi.
Oui, ben la saison dernière, voilà, c'est bon. Ah, l'an dernier scolaire, monsieur. Bref,
nous sommes l'an 9 après Dojo Bar, c'est ça?
C'est à peu près ça. Techniquement, on devrait compter que nous sommes l'an 41, peut-être 39 après Cyrard, mais voilà.
Mais attends, comme la Terre est cylindrique, c'est compliqué la mesure du temps.
Il fallait bien que ça arrive.
Faut demander à Méduse.
Je pense qu'il est le plus doué
pour ça. Il est belge, il a une autre vision du temps que nous. Hein.
C'est clair. Et je rappelle que la Belgique, c'est quand même beaucoup plus orientale que l'Angleterre. C'est quand même très important. Bref, donc notre ami Carl Jobs, qui a fait une très belle vidéo d'1 heure, alors malheureusement tout en anglais, mais je pense qu'il doit y avoir des sous-titres maintenant français, concernant la vente de jeux sous blister aux enchères, avec des révélations croustillantes.
Comme quoi, ce serait une arnaque?
Voilà, je laisse Zergy évoquer les très grandes lignes, je compléterai éventuellement.
Alors, est-ce que j'ai compris? Alors, j'ai vu la vidéo il y a un mois, donc j'ai un petit peu oublié. Est-ce que j'ai compris? Il y aurait quand même des problèmes de conflit d'intérêts, puisqu'il y aurait certaines personnes qui travailleraient pour l'entreprise qui fait l'évaluation des jeux, pour dire c'est du très bon état, c'est encore sous blister, c'est telle note, et qui bosserait en même temps pour l'entreprise qui fait la mise en enchère.
Exactement. Alors il y a des problèmes de collusion, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui... C'est-à-dire Wata Games qui fait le grading des jeux, qui est l'entreprise qui fait le plus de notation et d'évaluation des jeux exactement à la manière des comics ou à la manière des œuvres d'art ou à la manière de tous ces trucs-là. Donc cette entreprise appartient finalement au même groupe de personnes à qui appartiennent comment ça s'appelle, Heritage Auction, qui fait donc la plupart des enchères de ces jeux vidéo. Et le problème, c'est que le directeur de Wata, et en fait le board de Wata, donc les grands directeurs, directeurs exécutifs et ainsi de suite, la tête de cette entreprise Wata, qui fait la partie grading, grosso modo vend ses propres collections de jeux, alors que les salariés, eux, n'ont pas le droit de le faire. C'est quand même intéressant.
Parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Alors déjà, je suis surpris. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je me demandais qu'est-ce qu'ils y gagnent, en fait, à faire la même chose. Mais effectivement, si tu me dis que le patron en profite...
En fait, le patron en profite. Alors, il faut vraiment regarder la vidéo au complet. Je vous invite à la regarder. Alors, j'espère qu'il y a des sous-titres français maintenant. Ça doit être le cas. Si ça n'est pas le cas, je me demande si on peut être volontaire pour aller faire des sous-titres. Parce que honnêtement, ça mériterait d'être beaucoup plus connu que ça.
Sachant qu'il peut y avoir aussi des sous-titres en anglais, ce qui peut faciliter la tâche si vous avez du mal avec l'anglais oral.
Exactement, mais c'est très 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 bien expliqué, ça va vraiment en profondeur, et comme d'habitude avec Carl Jobs quand il fait ce genre de choses-là, vous pouvez aller absolument tout vérifier. Tous les documents sont là, donc vous pouvez aller tout voir par vous-même et tirer vos propres conclusions, c'est-à-dire que lui a tiré les siennes. Moi, elles me paraissent cohérentes, mais vous avez le droit de vous dire que ça mérite d'être vérifié, vous pouvez absolument tout vérifier, ça c'est quand même très intéressant de manière générale. Et il y a un vrai problème par contre qui est très inquiétant, je trouve, en dehors de ces soucis de collusion. Alors c'est peut-être le plus gros problème, hein, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, mais il y a un autre problème un petit peu gênant, c'est les questions de population. Alors moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est que cette entreprise de grading donc va évaluer la qualité des jeux, donc évaluer effectivement leur état et ainsi de suite, mais elle ne dit jamais combien de Super Mario 64 9 sous blister elle a évalué. Du coup, tu te retrouves avec un phénomène qui s'est passé pour, je crois, un Spider-Man sur Atari 2600, où le premier s'est vendu 9000$, ce qui est délirant pour un jeu comme ça, le deuxième s'est vendu 6000$, le troisième s'est vendu 7000$, et ainsi de suite, et en fait, aujourd'hui, il y en a genre 20 ou 30 qui sont aux enchères en permanence. Donc, les mecs ont... Il y a quelqu'un qui avait un stock de Spider-Man, qui les a fait tous évaluer, qui les a vendus, qui a vendu le premier très cher, puis ensuite il a essayé de s'en débarrasser le plus vite possible, et au fur et à mesure, le marché sur ce jeu spécifique s'est complètement effondré, simplement parce qu'on n'avait aucun rapport de population. Quand on fait ce genre de choses-là, quand on fait de l'évaluation de la qualité d'objets de collection, que ce soit des comics, que ce soit des pièces, que ce soit des cartes de baseball, que ce soit n'importe quoi, normalement, il est une obligation d'indiquer la population, c'est-à-dire le nombre qui ont été évalués, parce que c'est réellement le seul moyen qu'on a en tant qu'acheteur de savoir combien réellement d'exemplaires de cette qualité-là existent dans le monde. Et le simple fait que ce rapport de population n'existe pas est un énorme problème qui fait que Wata est complètement biaisé, quoi, finalement. Ils font l'évaluation des jeux, mais derrière, c'est eux qui t'encouragent à les mettre aux enchères chez Heritage, qui ramassent un énorme pourcentage, parce que c'est 20% de l'enchère, sauf que l'enchère, elle monte très haut, mais on ne sait pas combien il y a d'exemplaires exactement qui ont été vraiment évalués. Donc ils sont à la fois juges et parties, et en plus, ils biaisent complètement le jeu en essayant de cacher des informations qui sont vitales. J'espère que ce truc-là va se casser la gueule le plus rapidement possible, parce que franchement, c'est quand même assez lamentable. Voilà, je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, mais j'espère que vous... Un peu comme... Je vous souhaite le même sort qu'à Bobby Kotick.
Voilà. Ouais, c'est ça, parce que je suis tellement consterné que je trouve pas de vanne, quoi.
Je trouve ça lamentable, surtout qu'il y a des sommes énormes qui commencent à être en jeu, il y a des gens qui rentrent là-dedans, il y a un nouveau truc maintenant, c'est que tu peux acheter un pourcentage d'un jeu vidéo.
Oh putain, mais bonjour la blanchisserie, quoi.
Ouais, c'est ça, non mais tu vas exactement comme tu pouvais acheter un appartement en temps partagé. Là, tu vas pouvoir acheter un jeu vidéo partagé. C'est-à-dire, tu peux acheter Super Mario Bros, celui qui s'est vendu à $1 million, là, tu peux en acheter 5%. Et donc, la prochaine fois qu'il est vendu, s'il fait $1.2 million, tu récupères 5% d'$1.2 million, 5% donc, $1 million.
Tu auras donc une résistance de la cartouche.
Non mais vous voyez, on arrive à un des objets de spéculation qui deviennent délirants. Mais vraiment délirant.
Dans un monde où les NFT existent, ça me surprend plus, quoi.
Voilà, alors, on va pas se lancer là-dedans, sinon on va pas y arriver.
Oh merde, pas les NFT.
Non, on a dit non. Voilà, je vais juste terminer, avant qu'on fasse une première petite pause musicale, par... Alors, je suis désolé, l'année dernière, quand on a terminé, on a dit qu'on ferait un jeu concours et on n'a pas eu le temps. Donc, je vous prie de m'excuser. On n'a pas eu le temps, mais du coup, on fera un très gros jeu concours au mois de décembre. Ouh. Avec plein de trucs à gagner. Et vraiment plein de trucs à gagner. Donc ça, c'était la première chose, très importante, hein, je suis désolé, tout ça. La deuxième, c'est que on a fait Summer of GameCube, donc il y a eu 4 jours de stream d'affilée où on a refait l'intégralité du line-up européen de la GameCube avec des choses très bien et des choses beaucoup moins bien.
Oh putain, faut que tu me redonnes le nom du jeu de bagnole, pas ta modelée, mais Nickelodeon.
Cell Damage.
C'était bon, ça.
Excellente surprise. Moi, j'étais scotché. C'est vraiment un jeu, je m'attendais pas du tout à ça. Et il y a une version HD, et ça vaut quand même, à mon avis, vraiment le coup.
Version HD, dispo sur Switch, d'ailleurs.
Exactement. Donc, franchement, foncez. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait toute une série d'articles qui ont été relativement suivis durant l'été, mais je le réindique pour les gens qui l'auraient raté, qui consiste à faire une rétrospective de la GameCube année après année, et vous allez voir que à partir de l'année 4 ou 5, ça commence à être la catastrophe. Et c'est assez édifiant à suivre. Donc voilà, je vous invite à aller lire ou relire tout ça si vous l'avez raté cet été, parce que c'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté à le faire.
Ouais, c'était du bon boulot, c'est cool à lire.
Et c'est vraiment épique de voir à quel point le truc s'est écroulé après 3 ans, mais vraiment, c'est l'effondrement complet. Quoi.
Surtout que c'était les 20 ans de la GameCube la semaine dernière.
C'était les 20 ans de la GameCube la semaine dernière. On en parlera dans le Dojo Bar de la semaine prochaine, où on fera une petite rétrospective orale sur la GameCube, sur ce que vous en avez retenu.
Juste après avoir parlé du direct. Lol.
Exactement. Voilà. Donc on n'aura pas une émission complète sur la GameCube, c'est un peu dommage, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même largement de quoi dire. Voilà, on va s'écouter un tout petit morceau de la bande originale de Ghost Runner, qui s'appelle Air, et qui en fait est la musique d'intro du jeu. Voilà, ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après.
Ressemble à un 8.
Et nous voilà de retour. Bref, donc nous allons parler de nos jeux de l'été. On va commencer, donc ça c'est encore une fois c'est un gros pot pourri qui va se faire en deux parties. On va commencer plutôt par les petits jeux. Alors petits jeux au sens...
Pas grand chose à dire.
Pas forcément pas grand chose à dire, mais pas forcément à s'étaler sur des heures et des heures. Et puis voilà, des jeux on va dire avec un scope un peu plus réduit. Je vais commencer avec Monsieur Mecton qui nous a proposé Apes Odyssey, donc pas du tout neuf.
Oui, hein. Non, alors pas du tout neuf, mais alors, bonne surprise cet été, il y avait une grosse promo, donc c'était la Oddworld Collection, où tu avais donc Apes Odyssey, Munch Odyssey et La Fureur de l'étranger.
Of Wrath.
Ouais, bon, merci. C'est heureusement qu'on n'est pas en face, hein, parce qu'en temps de Covid, ce genre de phrase, c'est dangereux. qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, la compile complète à 30 balles. Donc, trois très bons jeux. Pour ce prix-là, c'était cool. Et du coup, Apes Odyssey, donc c'est le seul que j'ai relancé pour l'instant, en me donnant le challenge de sauver tous les Mudokons, ce coup-ci. Je sais pas si je détaille le jeu, hein, mais c'est un espèce de puzzle platformer.
Voilà, puzzle platformer aventure dans un monde. Non, c'est surtout l'univers, je pense, qui est intéressant.
C'est ça, puis le petit message semi-écolo-politique qui est derrière, qui est intéressant. Quoi. Et alors, pour faire tous les Mudokons, sachez que, alors, très bon remake, un temps de chargement très court, le truc est assez propre, ça se joue bien. Les sauts sont réglés comme à l'époque. Si vous voulez sauver tous les Mudokons, il y en a plus 99, il y en a, je crois, 299.
Oh, ça doit bien compliquer les choses.
Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de secrets ou pas, mais il me semble, par rapport à mon souvenir, que les premières salles cachées du premier niveau, il y avait déjà plus de Mudokons à l'intérieur. Donc, c'est peut-être juste un effet de masse. Voilà, c'est tout.
Ok.
Puis sinon, c'est très sympa. Si vous avez l'occasion, faites-le.
Moi, je, sur la même compilation, je recommanderais Stranger's Wrath, donc la fureur de l'étranger, qui est une espèce de mélange entre un FPS et un TPS dans l'univers justement de Abe's Odyssey, et qui est très sympathique. Alors c'est pas le jeu de l'année, hein, vous attendez pas un truc complètement mirifique, mais néanmoins voilà un jeu très intéressant, notamment par sa gestion des armes, notamment par son rythme, et qui marche vraiment très bien. Donc pas de soucis là-dessus.
C'est un tout petit truc, les trois jeux sont sur la cartouche et ils sont à jour sur la cartouche.
Et, oui, détail très important. Et alors, d'autres petits détails rigolos hein, pour les gens qui avaient acheté les trois jeux séparément, parce que les trois jeux sont sortis séparément, ça se revend très bien. Voilà, on va enchaîner avec Abzu, toujours avec Mecton. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui y ont joué ici, je pense qu'Antix, t'as dû y jouer aussi.
Ouais, j'y ai joué quand c'était gratuit sur PS4 au moment du confinement d'avril. Ah, vous savez très bien duquel je parle.
Le premier, le second, le huitième.
Celui de 2021.
Oui, celui qui était confinement, mais pas vraiment.
Oui.
Il était compliqué, on va dire.
Bon, il était très simple. J'ai pas fait l'attestation une seule fois.
Ouais.
Voilà, ça alors... à peu près résumé.
Donc Abzu, qui est un
jeu de Zadia & Company, donc les mecs qui ont fait Flower et Journée.
Non, justement, c'est pas de...
C'est les mêmes gars, mais le studio a pas le même nom.
D'accord.
Ça se finit en 2h30.
Ça s'oublie en 2h30.
Voilà, l'histoire est cryptique. Bon, quand tu grattes un peu, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Quoique, voilà, c'est plus une expérience. Visuellement, c'est très beau. La musique défonce. Mais ça m'a beaucoup moins marqué que Journée.
Je suis assez d'accord. Expérience équivalente, j'ai trouvé Journée bien plus plaisant, ne serait-ce qu'à jouer, même dans ce qu'il montrait, en fait.
Ouais, et Journée, je retiens une anecdote d'une joueuse qui était passée sur No Life à l'époque, qui disait qu'elle avait lâché sa larme à l'époque quand elle avait compris que le deuxième joueur... c'était un humain et pas une IA.
Ce qui n'est pas si évident à comprendre que ça dans Journey, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
C'est vraiment quelque chose de surprenant. Enfin, maintenant, quand tu le sais pas.
Voilà, maintenant tout le monde le sait. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait surprendre.
Voilà. Bon, bref. C'est... Donc Abzu, moi j'ai fait aussi, effectivement, fini en 2h30. J'ai pas compris grand-chose. C'est très joli.
C'est très joli, ça se joue bien, c'est cryptique.
C'est un joli trip audiovisuel, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, plutôt. Mmh. Voilà, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, mais en termes de gameplay et de message, c'est extrêmement... voilà, je comprends pas. Moi, j'ai pas compris, est-ce que les requins, c'est tes amis ou pas.
Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Clairement, voilà. Ça vaut le coup pour le trip visuel.
Ça vaut le coup pour le trip visuel. Moi, je constate qu'on ne bute pas des nazis, donc aucun intérêt. Voilà. Je vais enchaîner avec King's Bounty 2.
Je l'ai pas encore lancé, hein, bâtard.
Alors, j'ai acheté King's Bounty 2 parce que je pensais que ça allait être bien. Et en fait, c'est pas vraiment un tactical. C'est une espèce de RPG un peu modus boob. Dans lequel j'ai réussi à me softlock sur les deux premières heures, ce qui était quand même assez balèze.
Pardon.
Bah écoute.
C'est chaud ça.
Écoute, on me file des mecs en me disant vas-y, va bastonner les nounours. Donc je bastonne des loups, des rats, je sais pas, enfin c'est un RPG, donc c'est probablement des rats. Donc je bastonne des rats, je me fais tuer toute mon armée.
Ah, ça change les araignées, c'est original.
Je me fais tuer toute mon armée, parce que, bah, je sais pas, je sais, je
découvre le jeu. Parce que le Covid.
C'est ça.
Des araignées australiennes.
Je découvre le jeu, je sais pas trop bien jouer, tout ça, il y a un petit tuto, mais c'est pas hyper clair, bon bref, je me fais fumer le cul. Soit. Donc on me dit, est-ce que tu veux recommencer? Je dis oui. Je souhaite recommencer. Sauf que je recommence, mais sans l'armée, de base. qu'on m'avait filé au départ. Donc moi, je m'étais dit, je vais recommencer dans, au début de la bataille, en fait. Mais non. En fait, là, il y a de la permadesse sur l'armée que t'as engagée, quoi. C'est un peu con. Donc, du coup, je vais revoir le marchand et qui me dit, bah, mais je vais pas t'en redonner, moi, mon con. Faut les racheter. Donc, je me dis, bon, ok, je rachète des mecs. Je bats la première, je bats cette armée-là. Je vais à la suivante. Sauf que la puissante, elle est vachement plus costaud. Et je me prends une dérouillée. Et donc, je vais revoir le marchand. Il me dit, ah, mais t'as plus de thunes. Et je fais, ah ouais, mais je fais comment pour gagner de la thune? Et il me dit, ah, faut aller faire des batailles. On va pas y arriver. Voilà. En dehors de ça, il y a peut-être un très bon jeu derrière ça, hein, parce que là, je plaisante évidemment, mais voilà. Sauf que je trouve que c'est quand même très mou en termes de jeu, c'est-à-dire les batailles hexagonales, tout ça sont assez molles. Et j'ai pas accroché à l'univers. Je trouve finalement que t'as trois personnages prédéfinis que tu peux quasiment pas personnaliser. Je trouve c'est un peu dommage dans un RPG de pas pouvoir vraiment démarrer un peu comme tu veux. Voilà. C'est un peu triste.
Je l'ai pas encore lancé, mais tous les retours sont super mitigés sur celui-là. La phrase que j'ai retenue, je sais plus de quel site c'était, les cons, ils ont voulu réparer quelque chose qui était pas cassé.
Bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bah en tout cas, ça, bon. Donc moi j'étais vraiment hypé hein, pour King's Bounty 2, je me suis vraiment dit, ouais, c'est un petit tactical RPG machin dans l'univers de, je sais plus, alors c'est de... Pas Donjons et Dragons, c'est Might and Magic, donc tu vois, ouais, l'univers qui est quand même très sympa. Je me suis dit, ça va le faire, et en fait, effectivement, bon, j'étais un peu déçu. Après, c'est pas mon type de jeu, hein, donc c'est vrai que si le jeu est un peu moyen, c'est certain que j'accrocherai pas. Et ça a été le cas. Voilà. Et en plus, je le trouve un peu mou du cul, mais ça, c'est bon. c'est personnel. Encore une fois, faut pas buter des nazis, donc je ne comprends pas le scénario. Voilà. Hotline Miami 1 et 2, donc toujours trip psychédélique, on est Abzu dans un autre trip psychédélique,
non, mais voilà,
trip
psychédélique quand même. Dans l'an, tu vois, Abzu, donc cryptique, mais il est plutôt bien passé chez moi, parce que je l'ai fait juste après Hotline Miami 1 et 2, où, compilation, les deux jeux sont sur la cartouche, bon, je pense que tout le monde connaît le principe, c'est un jeu de shoot où, en gros, il va falloir défoncer la totalité des ennemis présents sur une carte, sur un niveau, en jouant sur ses réflexes. Mais c'est des réflexes qui sont au poil de cul, quoi. Le premier est vraiment excellent, alors, avec un scénario assez cryptique, mais qui se comprend. Le deuxième nous fait un scénario à la Pulp Fiction. Donc, il peut être sympa. Si tu refais le jeu une deuxième fois, quand t'as la trame globale et que tu t'amuses à remettre les scènes dans l'ordre, en fait.
De façon Pulp Fiction, donc.
Voilà. Mais le gros problème du 2, c'est que les maps sont plus grandes, mais que le gameplay est le même. Enfin, le même. Il y a quelques variantes, mais... Du fait que les maps sont plus grandes, en fait, t'es sans arrêt à jouer avec ton stick droit pour voir s'il y a quelque chose à l'horizon. Là où sur le premier, t'es dans l'action immédiate, quoi. Tu t'occupes de ce qui est autour de toi... Et le reste, on s'en branle.
Bah pour ceux qui connaissent pas Hotline Miami, le but, c'est de dézinguer des mecs à toute vitesse dans un appartement. Et tout le monde meurt en un coup, toi y compris. Donc du coup, t'es beaucoup sur les réflexes et vraiment la spontanéité de genre enchaîner les mecs. Il y a même un système de score basé là-dessus.
Et c'est super nerveux. Et c'est le genre de jeu qui te met rapidement dans la zone, tu vois.
Et c'est ça. C'est typiquement le genre de truc où tu vas être tellement concentré dessus que tu vas pas déscotcher normalement et tu vas commencer à baver si tout va bien.
C'est ça. Et alors, tu vois, le premier, topissime. Le deuxième, il y a certains niveaux que j'ai passés au bol. J'ai pas honte de le dire. Moi, je les ai passés sur un coup de chat. À force de claquer et de recommencer, au bout d'un moment, c'est passé sur un coup de bol. Et du coup, voilà, t'as cette petite frustration. Ça reste un bon jeu, mais un large cran en dessous du premier. Sauf pour la BO, et là je serai pas objectif, parce que quand tu as un niveau qui commence avec du Carpenter Brut, je suis plus
voilà.
Objectif.
Merci. Donc effectivement, Carpenter Brut, c'est bon, mangez-en, et il a fait des morceaux pour Hotline Miami qui sont juste exceptionnellissimes. Ah, le micro de Dantix vient de tomber.
Ouais, il est tombé sur la bouteille.
Non, c'était parfait. Ça a buté un mafieux russe, comme dans le jeu.
Parfait. Passway, alors je sais plus qui c'est qui...
C'était moi.
Ah, bah voilà.
Et tu vas être content parce qu'on tue les nazis dans celui-là.
Eh bah voilà. On va y arriver à fort.
Alors, pour le coup, t'as Passway, petit tactical, alors on va dire en mog roguelike.
Ok, donc non.
Voilà, alors non, on va faire un peu plus simple. En gros, c'est vraiment... moi, c'est quand je l'avais envoyé le mail, j'avais dit c'est le Indiana Jones tactical.
Mmh.
En gros, vous prenez... alors, plutôt le premier d'Indiana Jones, qui se passe en Égypte. Donc, tout va se passer sur le pourtour méditerranéen, plus du côté des pays où il y a du désert. Et vous allez jouer une bande d'aventuriers d'horizons divers et variés qui vont principalement poursuivre du nazi. Alors, pour diverses raisons. La première chose qu'on doit faire, c'est secourir quelqu'un. Et puis, très vite, en fait, on comprend que il y a des artefacts un peu mystérieux qui veulent être utilisés par les nazis. Et donc ça, c'est le pitch du jeu. Et le concept dans tout ça, c'est que on va se passer le jeu en fait à traverser des maps qui sont principalement des maps de désert en jeep. Et on va avancer sur des cases. Il y aura des événements aléatoires. Donc ça pourra être rencontrer avec un marchand. Ça pourra être coup de peau. On trouve des ressources parce que il y a besoin de ressources, que ce soit pour les médicaments, pour le carburant de la jeep ou même les munitions des balles.
Et donc ouais. Genre relou quoi. Enfin, faut pas se retrouver à court d'essence, sinon t'es coincé au milieu du désert.
Ah bah en fait, tu vas avancer, tu vas perdre de la vie. Hein.
Oh putain.
Et dans un jeu, on meurt relativement vite. Régulièrement, on va se taper dessus. Et les combats, c'est du tactical à la XCOM.
Nice.
Ce qui est plutôt chouette, il y a 3-4 classes d'armes, donc chaque personnage a sa spécialité. Donc t'as du sniper, t'as du fusil à pompe, t'as du petit pistolet, et t'as du fusil d'assaut. Je crois que globalement c'est les 4 assis, il y a une espèce de d'arme un peu spécifique qui s'appelle le désintégrateur, qui elle ne fonctionne pas sur des munitions d'ailleurs. Généralement, il va falloir buter des nazis, mais de temps en temps, il y aura des monstres, genre des zombies, des cultes, des cultistes et compagnie.
Donc en fait, c'est un mélange entre Indiana Jones et la momie, quoi.
Oui, j'allais dire, oui, voilà, exactement. Je pense que c'est aussi très inspiré de la momie, mais je l'ai pas vu. C'était assez chouette. Alors, je l'ai pas terminé, je suis pas allé au bout du jeu, parce qu'en fait, le problème, c'est que je trouve qu'il devient très répétitif au niveau des combats. C'est souvent les mêmes cartes, c'est très souvent les mêmes ennemis. Et les personnages, enfin, donc il y a plusieurs personnages qui sont débloquables, mais du coup, tu obtiens pas. Ils n'ont pas une évolution de ouf. Et finalement, tu te retrouves plus avec des personnages qui vont avoir un ensemble de capacités différentes et des personnages avec des trucs vraiment uniques. Et ça rend, je trouve, il y a moins de plaisir en fait à débloquer des personnages parce qu'au final, tu te rends compte qu'avec la majorité des personnages de base, tu as déjà accès à tout, mais juste pas au même moment.
D'accord.
Voilà, mais c'est agréable, c'est plutôt joli.
T'as un bout de scénario ou pas?
Je sais pas, je les appelle les dialogues. Hein.
Tu butes des nazis, t'as pas besoin de dialogue.
Tu butes des nazis et des zombies.
Que demande le peuple?
Alors, ceci dit, la gestion, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est la gestion des ressources, et notamment donc les trois ressources principales qui sont les munitions, les objets qui vont servir aussi bien pour les trousses de sang que pour les grenades, et le fuel, parce que c'est ça qui va vraiment te stresser en fait. Tu peux très facilement te retrouver à court de carburant si tu fais des détours. Tu peux te retrouver sans quoi soigner tes personnages et en fait tu pars très vite dans le jeu. 3-4 tirs, 2-3 tirs c'est suffisant pour tuer quelqu'un. Si t'as...
Oui, donc ça peut aller très 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 vite en fait.
Ça peut aller très vite. En fait, il suffit que ton personnage soit un peu trop proche des ennemis. Il va se prendre 3-4 tirs, il va être au bout de sa vie assez rapidement et c'est là où ça devient compliqué.
Ok, on va enchaîner avec Golf Story, donc ça n'a rien à voir.
C'est toujours moi.
Mais c'est toujours toi.
Parce qu'il se trouve qu'il y a un jeu de golf qui est sorti juste avant l'été. Et du coup, j'ai décidé de jouer à Golf Story. Parce que ça me bottait plus que Mario Golf.
Golf Story, on est d'accord, il est sorti en même temps que la Switch.
Ouais, très peu de choses près, ouais, pas un des premiers jeux, mais c'est un jeu qui est sorti très précocement, on va dire.
Alors, pour parler un petit peu des coulisses du Dojo Bar, je l'ai dit sur notre conversation Telegram, parce que oui, nous sommes des complotistes.
Non, tu parles pas de ça,
Non, je parlerai pas de tous les vices de Mecton. Oups. J'avais dit, ouais, je joue à Golf Story, et Mortal m'a fait. Elle m'a envoyé le lien du test, on m'a dit... Le problème du jeu, c'est pas la partie golf, c'est la partie story.
Bah, moi je l'avais dit, hein, golf 5 sur 5, story 0 sur 5, quoi.
C'est ça. C'est très drôle. Et moi, en fait, j'ai bien aimé le jeu. Alors, la partie story est assez intéressante, puisqu'on a quand même un héros qui se fait manipulé par absolument tous les personnages du jeu.
Tu te fais bolos par des golfeurs, quoi. Bon, à un moment, c'est pitié.
T'as l'impression que tous les golfeurs, ils sont absolument tous mauvais dans ce jeu. C'est incroyable. Mais, c'est comme l'a dit Mortal, c'est un super jeu de golf. Le fait que Swan 2D, t'as parfois un peu des petits soucis de perspective. Mais globalement, je trouve que tout marche bien. Et même le côté un petit peu faire des quêtes annexes et compagnie, c'était vachement intéressant parce que ça t'apprenait à faire des trick shots de golf un peu, parfois un peu compliqués à faire. Et il y a vraiment une progression qui est plutôt bien pensée. Je me suis vraiment éclaté. Même si parfois les dialogues sont pas toujours passionnants, je trouvais. Globalement, c'est très drôle. Parce qu'il y a quand même tout un moment où tu dois aider des apprentis maîtres du mal à monter une armée de zombies en tirant des yeux dans des squelettes.
On parle toujours de Golf Story. Hein.
On parle toujours de Golf Story.
Non mais moi mon problème avec Golf Story c'est surtout que si t'accroches pas à l'humour un peu absurde du truc.
Bah c'est très, moi ça m'a fait penser à, c'est un peu Earthbound, pas aussi poussé, mais il y a un peu de l'idée.
Voilà, mais c'est,
moi ça a marché, moi ça a marché complètement sur moi.
Moi je sais que ça a pas du tout marché sur moi, c'est-à-dire que leur humour je suis resté complètement hermétique et du coup effectivement t'as une histoire qui est pas hyper intéressante, qui en plus est très répétitive avec des challenges un peu de merde.
Ouais l'histoire, alors clairement l'histoire est clairement pas l'intérêt, je sais plus l'humour et les petites scènes vraiment rigolotes. Qui fonctionne bien.
Alors après, t'as un excellent jeu de golf derrière, dont la physique, pour un jeu de golf en 2D en tout cas, dont la physique marche extrêmement bien.
Yep, et en plus, il y a tout un mode, alors ça, j'y ai pas touché parce que ça m'intéresse pas, mais il y a tout un mode vraiment purement golf dans le menu.
Moi, c'est le seul truc auquel j'ai joué à la fin.
Ça m'étonne
pas. Ça me gonflait. La partie histoire me cassait les couilles. Voilà, mais il y a vraiment des jolis trick shots à faire en plus. Et il y a vraiment des choses intéressantes à faire, mais effectivement, je suis très mitigé sur l'aspect story.
Surtout qu'en plus, les parcours, c'est pas du bête parcours de golf, t'as souvent des petits trucs à faire, genre tirer ta balle en rayon d'action d'un corbeau pour qu'il te bouge ta balle à un endroit qui pourrait être intéressant, rebondir sur des tortues.
Oui, il y a plein de. Voilà, les mecs ont vraiment essayé de taper l'originalité, et ça marche la plupart du temps.
Oui,
les parcours traditionnels sont bons, les parcours un peu plus fantaisistes sont pas mal non plus. Mm. Tout ne marche pas, il y a deux trois gimmicks un peu lourds par moment, mais bon, dans l'ensemble ça passe.
Voilà, et j'ai une grosse hâte pour Sports Story qui devrait sortir un jour peut-être. Et qui sera la suite.
Et ça se finit en combien de temps?
10 heures je crois.
Ok.
Bon, ça se joue vite franchement, j'ai avancé assez vite parce que je me plaisais bien au jeu.
Non mais c'est très bien.
Voilà, je vais laisser la parole me semble-t-il à Monsieur Zergy pour notre dernier jeu de cette première partie qui était Monster World 4.
Oui, il n'y a pas grand chose à dire, il y a un remake qui est sorti sur Switch dernièrement, et à la base c'est un jeu Mega Drive, je crois.
Alors Mega Drive ou Master System très très tardif, mais c'est plus... oui, peut-être plus Mega Drive.
C'est plus Mega Drive, j'ai découvert ça, je sais pas, j'ai acheté le jeu comme ça, j'ai vu ça passer sur Strictly Limited Run, je me suis dit pourquoi pas, j'avais bien aimé le remake de... Monster World 3 voilà. Ou Wonder Boy, je sais plus quoi.
Wonder Boy 2, Monster Boy 3, World Kingdom, machin, enfin, cette série auquel on comprend plus rien depuis très longtemps.
Voilà, donc j'ai pris et... Ouais, c'est bien.
Donc c'est quoi, c'est un platformer, c'est un platformer plus ou moins RPG?
Ouais, c'est plus platformer hein, que RPG.
Il me semble qu'il y a un peu de Metroid dans le truc, non?
Non, tu peux pas revenir dans les mondes que t'as déjà explorés.
D'accord,
c'est un peu dommage.
C'est pas comme le 3 alors, ok.
Alors Monster World 3, Dragon's Trap, qui...
Putain. Oui, alors, celui-là. Oui.
Monster Boy 2, Monster World 3, Dragon's Trap, qui a eu un remake, qui a même eu une suite qui est complètement inédite, qui était faite par le même studio, qui n'est sorti qu'aux États-Unis et qui était. Bon, c'est pas des mauvais jeux. Le truc c'est que moi, on m'avait vendu un jeu exceptionnel pour son époque. Alors effectivement, je veux bien croire que sur Master System, quand tu jouais à ça en 88, ça te troue le cul. Mais quand tu joues au remake qui est à peu près pareil en 2020, bah en fait, oui, tu te rends compte que le jeu, il est... Ouais,
oui, le remake n'apporte pas grand-chose.
Alors pour le coup, tu es plus dans le remaster que dans le remake, hein, c'est ça?
Oui, complètement. Complètement. Bref, donc voilà, on va marquer une deuxième pause musicale. Oui. J'ai pas chargé la playlist, voilà, bien joué moi. Alors, je vais charger la playlist.
Mais quel était le son que tu nous proposais?
Eh bien, je vais vous proposer aussi un autre morceau de Ghost Runner, la bande originale de Ghost Runner.
Ce morceau s'appelle... Mais quel est-il ce jeu? Aurais-tu écrit un test dessus?
Peut-être, mais nous en parlerons après la pause.
Oh.
Ah merde, je l'ai pas mis dans le conducteur. C'est parfait. Bon, ouais. Je le rajoute dans le conducteur. Voilà. Cette émission est réalisée par des professionnels.
Et du coup, le direct vient d'être annulé.
Bon Dieu. voilà, donc Ghost Runner, le morceau s'appelle Blood and Steel, donc le sang et le métal, et l'acier d'ailleurs plus précisément. Je précise, j'ai pas précisé pour le premier, c'est composé et joué par un monsieur qui se fait appeler Daniel Deluxe, je suppose que c'est un pseudonyme, mais voilà, on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas un pseudonyme, je ne sais rien de ce monsieur, je n'ai rien trouvé sur lui. Mais voilà, Daniel Deluxe, Ghost Runner, Blood and Steel, et on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et nous revenons donc avec la deuxième partie de notre sélection de ces jeux de l'été. Je vais commencer par Ghost Runner. Donc il y a un test sur le dojo, sur Ghost Runner. J'en ai chié des bulles pour le finir. Le jeu est raide sa mère. Et vraiment, c'est très très difficile. Le seul reproche réel que j'ai à faire au jeu, je vais le dire tout de suite, comme ça je vais évacuer ça, les checkpoints ne sont pas des sauvegardes. Donc il faut finir un niveau complet avant de pouvoir sauvegarder. C'est assez frustrant par moment. Voilà, donc Ghost Runner, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est Cyberpunk 2077, mais en qui marche. Alors non, ce n'est pas du tout un RPG, c'est un jeu de plateforme action dans lequel on incarne un Ghost Runner, c'est-à-dire une espèce de machine plus ou moins hybride humain, ninja, robot. Donc 50% homme, 50% robot, 50% ninja, en gros.
L'homme en sport, quoi.
Le concept.
Et 2% cafetière derrière.
C'est un peu ça. Avec une épée, enfin avec une arme qui est elle-même qualifiée d'arme de précision, silencieuse.
Un katana.
Parce qu'il fallait que ça fasse cool. Et en fait, ça marche drôlement bien. Donc l'idée, c'est qu'on te lâche dans des niveaux extrêmement aériens, extrêmement verticaux, dans lequel tu peux courir contre les murs. Alors façon Prince of Persia finalement, mais à la première personne. Donc on peut courir contre les murs, on peut sauter, on peut faire des doubles sauts, on peut faire des espèces de bullet time quand on saute pour pouvoir se décaler, éviter les tirs ennemis. Enfin voilà, c'est un jeu hyper dynamique.
Là tu vomis, tu ramasses ton arme et tu continues.
C'est à peu près ça. C'est vraiment un mélange entre tout l'univers cyberpunk, plus Matrix, plus tout un tas d'autres influences comme Dark City, comme voilà, ça reprend un gros melting pot d'idées. Oui, t'as des gros bouts de Dark City dedans, mine de rien. Et ça, c'est bien. Genre, Dark City, mieux que Matrix. Voilà, hop, c'est la chose.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, l'univers est très très plaisant, le jeu est relativement joli sur Switch, alors il tourne 40 images par seconde, il est un petit peu floutasse les bananas, hein, mais je trouve que ça passe assez bien, les décors sont bien adaptés à ça, tu vois que ça a quand même été travaillé. C'est hyper dynamique, et donc le principe c'est que tu vas, pour finir le tout premier niveau, tu vas mourir environ 2 à 300 fois.
Voilà. Ah ouais, c'est Hotline Miami en 3D quoi.
Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup finalement parce que si tu ne fais pas l'enchaînement parfait entre deux checkpoints, tu meurs.
Okay.
Tu n'as pas de point de vie, tu meurs en un coup, quoi qu'il arrive. Et il y a des fois où c'est vraiment extrêmement difficile parce qu'il faut trouver en fait la bonne approche pour la situation dans laquelle tu es, que ce soit tuer deux ennemis, que ce soit passer un obstacle particulier, ainsi de suite. C'est très compliqué, c'est très difficile. Par contre, une fois que tu l'as fait, une fois que t'es vraiment... Là aussi, c'est un jeu qui te met bien dans la zone, parce que finalement, t'as cette espèce de musique donc de Daniel Deluxe, qui va beaucoup vous rappeler du Carpenter Brut. Il y a beaucoup de synthé un peu énervé. Enfin bref, voilà. Très, très, très amusant là-dessus. Et donc une fois qu'on est dans la zone et qu'on est dedans, on refait mécaniquement et machinalement toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, jusqu'à avoir l'enchaînement absolument parfait. Et là, ça devient vraiment jouissif parce que tout d'un coup, tu cours contre un mur, tu sautes, tu fais un bullet time, tu te décales sur le côté, tu décapites un mec, tu ressautes sur un autre truc, t'éclates un piège, tu redescends sur un gars pour lui planter ton sabre. Enfin, c'est vraiment voilà, super, super bien foutu là-dessus. Voilà, dans un univers très plaisant. Donc moi, je vous le recommande chaudement, d'autant plus qu'il y a un DLC gratuit qui est sorti. Il y a un mode speedrun, donc tu peux avoir... c'est un jeu qui a été pensé pour le speedrun et pour la compétition, puisque tu peux faire afficher sur le HUD le nombre de morts, le temps que tu y as passé, ainsi de suite. Il y a déjà des speedruns sur le jeu qui sont hallucinants. Si vous avez la chance de... Faites le premier niveau du jeu avant de regarder le speedrun, vous allez voir que le premier niveau du jeu, vous allez mourir 300 fois, le finir en à peu près une heure. Le speedrunner met environ, je déconne pas, genre 90 secondes sans mourir. Et c'est pas le niveau le plus impressionnant. Parce qu'il y a, il y a deux ou trois boss dans le jeu, qui sont pas forcément les moments les plus intéressants, malheureusement, sur un jeu qui mélange plutôt plateforme action, les boss, c'est pas terrible. Ça marche, hein, mais c'est pas fou. Et je crois que le tout premier boss, il a fallu que j'y passe une heure et demie à mourir en boucle, mais vraiment en boucle. Et le gars le passe en genre 15 secondes.
Putain, ça me fait penser. À l'occasion, il faudrait que je vous parle de... Enfin, ouais, il faut même que j'écrive un truc là-dessus sur Superhot.
Oui, oui, oui. Il y a des choses à dire là-dessus.
Oh oui.
Voilà, on va enchaîner avec a Plague Tale. Alors, je me souviens plus qui c'est qui m'avait donné. Mecton, peut-être.
Non, c'était moi.
Ah, c'est Antix, pardon. Donc, A Plague Tale, un bon jeu de pandémie.
C'est pas mal, non, c'est français.
Alors, oui, j'y ai pas joué sur Switch.
C'est pas grave, on t'en veut pas.
Il y a une version cloud dans le nuage. Mais du coup, j'ai fait la version PC qui était gratuite sur l'Epic Game Store il y a un mois, je crois, à peu près. C'est le jeu que je fais avec ma copine en ce moment parce qu'elle aime beaucoup les univers historiques.
Ah !
Non, les rats, ça. J'allais dire, ça a une tendance à stresser plus qu'autre chose, mais oui, c'est ça. Et donc c'est un jeu, en fait, j'aime beaucoup le cadre, et l'Europe, enfin surtout la France, période...
La France, monsieur.
La France, mais pas n'importe quelle France. La France durant la guerre de Cent Ans et la France durant la peste noire.
Mmh.
Donc autant dire...
Mois d'avril 2021.
Exactement. C'est à peu près ça. Et ça raconte l'histoire de Amicia, qui est la fille d'un noble local d'un village perdu dans la forêt. Enfin, dans la forêt, je sais pas, mais en tout cas d'un petit comté pas très grand, tu vois. Et en fait, ça commence quand l'Inquisition débarque chez elle et tue absolument tout le monde. Son père, sa mère, les serviteurs, sauf son frère.
Ses frères et ses sœurs.
Oh, justement. Justement, il reste que le frère et la sœur, donc elle et Henri. Non, Hugo, son frère. Voilà, c'est Hugo. Et en fait, Hugo, il est atteint d'un mal bizarre qui apparemment serait lié, qui intéresserait l'Inquisition et qui aussi serait lié à l'apparition d'une grande horde de rats, qui est un petit peu la prouesse technique du jeu. Entre guillemets.
Oui, l'espèce de dessin de rats qui se fait.
Voilà,
comme ça,
tu vois les trucs. Alors, quand tu regardes de plus près, tu vois qu'ils bougent de manière un petit peu aléatoire et que parfois les mouvements n'ont pas beaucoup de sens. En jeu, ça reste impressionnant parce que tu les vois débarquer en masse, tu touches, tu meurs en un coup. Mais globalement, dans le jeu, tout te touche, tout te tue en un coup puisque tu joues quand même une adolescente qui sait pas vraiment se battre. Donc t'as pas vraiment de combat, c'est beaucoup d'infiltration et beaucoup d'énigmes pour justement passer les obstacles. Et notamment ces fameux rats qui apparaîtront régulièrement au cours de l'aventure et qui, mine de rien, sont assez impressionnants. C'est assez chouette, alors je l'ai pas terminé, je dois être à peu près à la moitié, je pense. Je crois que le jeu fait 10-12 heures, grand maximum. C'est du gameplay très inspiré de The Last of Us, les fusillades en moins. Ça tombe bien parce que c'est pas la partie la plus intéressante.
Ouais, j'allais dire, ça peut être que bien, quoi.
Voilà,
c'est ça. C'est des bâtards.
Non, mais The Last of Us, j'ai hâte de voir la série, parce que le jeu, putain de scénario, superbe réalisation, mais à jouer, c'est quelconque, quoi.
C'est vraiment pas le jeu le plus intéressant à jouer, The Last of Us. Et du coup, bah, c'est aussi un petit peu le défaut de Plague Tale, c'est que c'est pas exceptionnel comme gameplay. Enfin, surtout en ce moment, moi qui joue à Tales of Arise, qui a un gameplay beaucoup plus dynamique, j'avoue que j'étais un petit peu en train de veiller hier par moment, quand j'étais en train de jouer. Mais à côté, on a une ambiance qui est assez inédite dans un jeu vidéo, mine de rien. un scénario qui est vraiment, pour moi, pour l'instant, se tient plutôt pas mal et c'est joli.
Il n'a pas été primé ce scénario d'ailleurs.
Si, alors je sais pas, sûrement au Pégase, puisque globalement l'année où il est sorti, c'était l'un des grands jeux français à peu près digne de ce nom. Par contre, c'est une belle réussite à Sobo, c'est un petit studio. Et on a un jeu qui.
Petit qui grossit, hein, ils ont fait Flight Simulator.
Maintenant ils ont été achetés par Microsoft. Mais on voit quand même un truc qui est maîtrisé en termes de réalisation, d'effets visuels et la retranscription de la France médiévale est assez chouette. Donc ça, c'est un truc que je conseille si vous avez l'occasion de se trouver assez facilement en promo. Et c'était plutôt cool. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne expérience, à part sur le gameplay que je trouve un peu limité. Ça reste quand même plutôt chouette.
Du coup, pour l'ambiance et le scénar, feu.
Ça vaut le coup, et en plus, il dure 10-12 heures, donc je pense qu'il va s'arrêter vraiment au moment où ce sera vraiment devenu lassant le gameplay et qu'on veut juste avoir la fin. Alors, la fin, sachant qu'il y a, je crois qu'il y a une suite, donc il va y avoir sûrement un cliffhanger ou un truc comme ça.
Oh. Bon, en tout cas, on suivra ça. Pokémon Unite. Alors, pourquoi un MOBA avec des Pokémon ? Moi, j'aimerais qu'on m'explique.
Parce que l'argent.
Parce que le pognon. Oui, donc je vous ai fait un petit article là-dessus. Si vous êtes client des MOBA, je l'ai un peu orienté comparaison avec League of Legends, qui reste le MOBA avec le plus de succès aujourd'hui.
Dota.
Eh ben,
attends, c'est un MOBA. Moi, je crois que c'était un MMO.
Non, c'est un MOBA.
C'est un MOBA de Pokémon, ce qui est assez.
C'est ça. Et ça marche plutôt bien. Alors, ça marchait plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. J'y reviendrai. Donc on critiquait, attends, je vais évacuer ça tout de suite. On critiquait beaucoup. Donc il est dispo sur Switch et depuis aujourd'hui sur smartphone. Beaucoup de gens critiquaient un potentiel aspect pay to win. Ce que je leur répondrais, c'est que avec un bagage MOBA, tu arrives parfaitement à t'en sortir sans lâcher le moindre euro. Jusqu'à aujourd'hui, si tu y joues sur téléphone portable, oui, c'est un pay-to-win, parce qu'il faut acheter une Switch pour y jouer dans des conditions confortables. Au téléphone, avec un joystick virtuel, c'est juste chiant, quoi.
Alors pourtant, c'est un jeu qui a été pensé pour mobile à la base, non ?
Eh ben, je sais pas, parce qu'à la manette, ça marche super bien.
Bah, ils l'ont présenté sur mobile à la base, donc c'est pour ça que ça m'étonne. Hein.
Ouais, ça me paraît... Ouais, ou alors c'est juste moi qui deviens un peu réac sur les jouabilités tactiles.
Non, bref. Franchement, jamais.
Non, ça marche plutôt bien. Très bonne surprise. Toutes les parties sont très rapides, sachant qu'elles durent...
C'est 10 minutes max, c'est ça ?
C'est 10 minutes max.
Limite de temps à 10 minutes, je crois. Ouais.
C'est vraiment 10 minutes max. Et là où dans un League of Legends, les parties peuvent s'éterniser jusqu'à ce que quelqu'un aille péter toutes les tours et la base du fond, enfin toutes les tours... Les tours pour accéder à la base du fond, dans celui-là, il faut en fait marquer des points. Donc tu as des goals sur tes différentes voies sur la carte qui ont 100 points de vie max. Tu farmes tes creeps à droite à gauche sur la carte qui te donne un certain nombre de points que tu gardes en réserve. Tu vas marquer tes points sur les tours et quand les tours n'ont plus points de vie, elles dégagent et tu peux passer à la tour d'après. Et au bout de 10 minutes, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné.
D'accord, donc il y a une limite finie. On peut gagner au bout de 3 minutes, mais de toute façon, au bout de 10, le truc s'arrête.
Au bout de 10, le truc s'arrête, mais au bout de 3 minutes, tu peux violenter la partie, mais il y a une mécanique de jeu qui a été un peu critiquée d'ailleurs, qui fait qu'il faut rester attentif jusque la fin. En fait. Si tu roules sur l'équipe adverse, dans les 2 minutes finales, il y a quoi qui arrive, une manière de remonter, voire de retourner la partie.
C'est un petit peu le bim-boom, quoi.
Un petit peu quoi, pardon ?
C'est un peu le bilboom de Mario Kart.
C'est un truc à la Mario Party. Bon, il y a un énorme buff au milieu de la carte qui apparaît à 2 minutes de la fin. Et dans les 2 dernières minutes, tous les points marqués sont doublés. Et si tu arrives si ton équipe arrive à s'accaparer le buff qui est au milieu de la carte dans les 2 dernières minutes, tous les points de but restants de l'équipe adverse, y compris la base adverse, quand tu vas arriver dessus pour marquer tes points, le marquage va être instantané. Là où le reste de la partie, il y a un temps de cast. Plus tu as de points à marquer, plus tu dois rester longtemps sur le but, donc
plus il faut que tes équipiers t'aident parce que t'es sans défense, je suppose, quand tu marques.
Exactement.
Quand tu poses tes points.
Exactement.
Ah oui, donc t'as un buff où genre, même si t'as... Enfin, faut quand même avoir des points, je suppose, mais si t'as 20 points, ils sont instantanés.
T'arrives sur le goal, t'appuies sur le bouton, boum, c'est marqué.
Ah oui.
Donc si, voilà, si tu... Il y a plein de petites stratégies possibles, et pour moi, ça rentre directement dans la catégorie des jeux qui sont compréhensibles en 2 minutes, mais où tu as des possibilités de stratégie qui sont assez multiples derrière. Donc c'est vraiment... Bonne surprise.
Comme Quake 3. Attendez.
Ouais, bah ouais. Attends.
Stratégie, et... pardon.
Alors, quand il est sorti sur Switch, donc les gens râlaient, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les personnages qui étaient en apparence super forts, en fait, avaient tous une faiblesse. L'exemple typique, c'est ce qu'on appelle le Glass Cannon dans les MOBA. Donc le personnage qui va faire de dégâts de malade, mais que si tu arrives à le contrôler un petit peu, tu vas te rendre compte qu'il est super fragile.
C'est toujours comme ça, c'est les mêmes archétypes que tu trouves où t'as des tanks qui effectivement sont très costauds mais font très peu de dégâts, sont très lents ou des choses comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que du coup le Glass Cannon c'est un homme blanc?
Alors, non. on va pas dire ça.
Et là sur les archétypes, en fait, dès la préparation de la partie, le menu est affiché. Chacun va choisir son personnage et le jeu va te dire « Tiens, si vous rajoutiez un tank, ça marcherait peut-être mieux votre compo là ».
Ça me fait penser à Overwatch.
Exactement.
Bah après, il arrive un peu après la guerre, ce Pokémon Unite. Faut bien qu'il repique les bonnes idées là où elles sont. Hein.
Ah oui, non, mais voilà, ça jardine de partout, mais ça marche. Mais ça marche plutôt bien. Alors, quand il est sorti sur Switch, j'y reviens. Sur la première semaine, c'était comme sur tout jeu, quoi. C'est la foire aux débutants jusqu'à ce que les gens comprennent un peu comment ça marche et après ça se lisse. Là aujourd'hui, donc il vient de sortir sur smartphone. Que tu joues sur smartphone ou sur Switch, tu peux te retrouver dans la même partie. Et quelqu'un qui joue sur smartphone, on s'en rend compte direct. Il va faire des petits mouvements bizarres, il va galérer à enchaîner deux capacités spéciales parce que le truc vient de sortir, donc il faut que les gens s'habituent. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on retrouvera le niveau de jeu qu'on avait jusqu'à hier. Et franchement, c'était plaisant, quoi.
Moi, j'ai une question, j'ai deux questions.
Vas-y.
La première, c'est est-ce que les Pokémon évoluent en cours de partie, genre s'ils montent de niveau?
Oui.
Ça, c'est plutôt chouette.
Pas tous, mais oui. C'est essentiellement graphique. C'est essentiellement graphique.
Il n'y a pas de capacité supplémentaire ou des meilleures stats?
Ah, si. Alors, tu as un système de niveau. Ou avec de l'XP partagé, vraiment comme dans League of Legends pour le coup, où si tu donnes le last hit, donc le dernier coup sur un Pokémon sauvage, ceux qui sont là sur la carte pour farmer les points, donc si c'est toi qui donnes le last hit, tu récupères de l'XP, tous tes alliés qui sont à proximité en récupèrent un petit peu, mais moins. Donc c'est là aussi où tu peux favoriser en fait un de tes équipiers, dire systématiquement lui, on va lui laisser donner le dernier coup parce qu'il a besoin d'être à haut niveau plus vite que les autres pour que ta stratégie marche mieux. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup.
Oui.
Tout à fait.
Et l'autre question c'est est-ce qu'il y a des skins à la con?
Oui. Bah, c'est un jeu gratuit.
Pikachu Lucha Libre.
Pas encore, mais ça viendra. Mais oui, il y a du skin à la con, il y a des cosmétiques de merde pour ton dresseur, enfin, du coup, la galerie de trucs qui sert absolument à rien.
Voilà, donc c'est un MOBA. C'est ça qu'on retiendra.
Un MOBA gratos, oui.
Alors, No More Heroes 3, alors je sais pas si je suis le seul à y avoir joué.
Ben, je l'ai pas encore fait, parce que Pixel Love sont à la bourre.
Bref, donc No More Heroes 3, qui est donc la suite de la série No More Heroes, qui sera donc le dernier épisode de la série No More Heroes, qui compte donc 2 épisodes principaux et une espèce de spin-off un peu curieux.
Très curieux.
Très curieux, mais qui marchait plutôt bien, je trouve. Enfin.
Ouais, hors les parties visual novel qui étaient chiantes.
Oui. Et donc No More Heroes 3, qui est une sorte de retour aux sources, puisqu'on se retrouve de nouveau avec cette gigantesque carte un peu vide de Santa Destroy.
Oh merde,
ils ont
mis ça.
Ouais, et honnêtement, c'est pas la meilleure partie.
Alors qu'il l'avait dégagé dans le 2.
Alors qu'il l'avait dégagé dans le 2, et tu sens en plus que ça a été un peu rentré au forceps, parce que finalement, c'est encore une fois relativement vide. Pas inintéressant, mais relativement vide.
Plus intéressant que dans le premier?
Sensiblement équivalent, je dirais.
Oula.
Donc non, mais c'est assez vide en fait. Bref, c'est pas la plus grande réussite du jeu. Maintenant, ça reste un beat'em all un peu concon. Et finalement, c'est tout ce qu'on en attend, quoi. Un beat'em all un peu concon avec des cinématiques complètement délirantes, un scénario qui est juste psychédélique, mais vraiment psychédéliquissime, avec des transitions entre les différents écrans et tout qui sont absolument. Tu te demandes quel champi t'as bien pu avaler. Tiens, ce truc dans le frigo, là, c'était peut-être pas bien de le manger ce soir. Voilà. De toute façon,
c'est très dans l'esprit des deux premiers, quoi.
C'est très dans l'esprit des deux premiers, avec une partie beat'em all qui marche plutôt bien, peut-être un poil plus subtil que le 1, mais du même niveau que le 2, finalement, où t'as des esquives de dernière minute, t'as des boss assez impressionnants, où il y a quand même des patterns un petit peu, des patterns un peu sympas à apprendre. T'as des parties mecha, parce que évidemment, mecha dans l'espace. Excusez-moi, voilà.
Je sais bien que.
Non mais ça me paraissait logique, je veux dire, s'il manquait ça. Et effectivement, tu affrontes une invasion d'assassins extraterrestres.
Ça reste des assassins.
Parce que pourquoi pas. Je crois qu'il y a un moment où le jeu... Alors évidemment, attendez-vous à du cassage de quatrième mur, mais en fanfare. Hein, puisque le jeu n'a absolument aucun sens de A à Z. Notamment à un moment, je crois que c'est sur la fin du 2. Alors j'aimerais bien ne pas divulgâcher le 2 pour les gens qui l'auraient pas fait, mais à la fin du 2, il y a une certaine révélation sur Sylvia, la dame qui fait le concours des assassins, tout ça.
Et je crois que c'est...
Voilà. Alors je sais pas si c'est russe ou allemand, si ça doit être russe d'ailleurs.
Pour moi, c'est russe, mais.
Moi, ouais, je dirais russe aussi.
Ouais. J'aurais dit russe aussi. Et en fait, il y a une révélation sur Sylvia à la fin du 2, qu'au début du 3, on te dit genre, ouais, mais en fait, on s'en bat les couilles. Donc, voilà. Littéralement, c'est exactement ce qu'on te dit en face. On te dit, ouais, bon, si vous avez pas suffisamment du 2, bah ça, on s'en fout. Voilà. C'est presque ça.
C'est aussi dans le Travis Strike Back, là, dans le spin-off. Il y a un moment où tu as des dialogues, tu dis, bon, ok, c'est Deadpool, quoi. Les persos ont conscience d'être dans un jeu.
Mais c'est ça. Mais en fait, le truc est très très aware de lui-même, et c'est assez plaisant, notamment, je sais pas si tu rappelles le chat qui s'appelle Julie de mémoire.
Julia. Il parle le chat dans le spin-off,
mais je sais pas si c'est comme dans le 3, moi le spin-off, je m'en souvenais plus comme ça, mais voilà. Où Julia se met à parler avec une voix de bonhomme. Et t'es là genre il se passe quoi, et puis même Travis dit mais il se passe quoi Julia, et fait, mais l'autre il fait mais je suis un mec. Tu savais pas. Putain de truc, voilà, c'est que des conneries comme ça, c'est 20 conneries comme ça à la minute. Donc faut savoir que par exemple dans les vaisseaux extraterrestres il y a des chiottes pour pouvoir sauvegarder.
Oui, mais normal,
logique.
Voilà, t'as des épreuves débiles, genre effectivement déboucher les chiottes, tondre le jardin, ramasser des noix de coco, enfin les trucs habituels de Souda 51. Donc voilà,
il me semble qu'en plus il a fait appel à quelques guests pour des designs, parce que j'ai vu qu'il y avait un des personnages qui a été fait par Inyo Asano, alors moi qui est un mangaka que j'aime beaucoup. On voit son design de ouf, et il me semble avoir vu il y a des dessins d'un studio japonais d'animation qui est vraiment connu pour faire des dessins moches. Entre guillemets, ils sont très très bons à faire ça. Et j'arrive plus à me souvenir le nom en tête, et il me semble avoir vu ça sur un des boss, je sais plus lequel.
Alors, je ne saurais pas te dire, parce que j'ai pas été extrêmement loin, je suis arrivé jusqu'en gros au 2 ou 3ème assassin. Voilà, donc, si vous êtes dans le délire de No More Heroes, si No More Heroes 1 et 2 ça vous a plu, je pense que No More Heroes 3, faut pas hésiter, c'est vraiment, c'est du caviar. Par contre, si vous n'avez pas accroché à No More Heroes 1 ou 2, honnêtement, passez votre chemin, parce que ça va vous saouler très rapidement.
Ça va être la même chose. Hein.
C'est à peu près, voilà, c'est dans le même délire, c'est dans le même état d'esprit. Donc, moi, il y a des choses que je trouve absolument à hurler de rire. Et à côté de ça, il y a des trucs que je trouve absolument rageants, notamment cette ville vide, ces menus qui sont insupportables. Voilà. Mais à côté de ça, tu as l'animation à chaque fois que tu tues un mec... où tu gagnes sa figurine en emballage, sous emballage, sous blister, et qu'il faut surtout pas ouvrir le blister, parce que sinon elle perdrait toute sa valeur. Enfin, t'as que des conneries comme ça tout le temps. C'est vraiment... voilà. Moi, je trouve que le délire et le côté second degré valent le coup, mais encore une fois, ça reste quand même un beat'em all un petit peu basique, avec des mini-jeux un peu débiles, et voilà. Donc faut quand même accrocher.
Il a passé la case censure ce coup-ci.
Alors, Je saurais pas dire, parce que comme tu bats essentiellement des robots et des extraterrestres, je me dis que finalement, il n'y a pas tellement besoin de censure.
Ok, ok. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, la ressortie de No More Heroes 1 sur Switch, c'est la version non censurée.
Et si ça vous intéresse, donc No More Heroes 1 et 2 sont sortis chez Limited Run à un prix genre 40€ chacun.
Oui, je les ai reçus aujourd'hui, les connards.
Et No More Heroes 1 plus 2 sort en Asie. Donc sort, alors c'est une version japonaise en fait, avec une pochette en anglais. 1 plus 2 sort au prix de genre 40 balles, je crois, les deux. Donc vous faites pas chier avec la version Limited Run. Achetez directement la version asiatique, ça ira plus vite. Bref. WarioWare, Get It Together. Alors, je sais plus qui en avait parlé.
Oui.
Monsieur Mecton.
Alors, j'aimerais que Tardy soit là, parce que pour lui, donc, c'est le GOTY. Grande nouveauté de cet épisode. Alors, est-ce qu'on reparle du principe de WarioWare ?
Oui,
enchaînement,
on sait jamais.
Enchaînement à toute bombe de micro-jeux ultra débiles, où en gros, tu as très peu de temps pour comprendre ce qu'il faut faire et le faire, et passer au micro-jeu d'après.
Et en général, ça promet des soirées. Je me rappelle d'une soirée dojo où il y avait Agent, donc le vieux crew du dojo. Hein. Il y avait Agent, il y avait OPHXH, il y avait voilà, et où on s'est tapé une barre sur WarioWare sur GameCube, et en plus c'était la version japonaise.
Un des meilleurs jeux multi de l'histoire, le WarioWare GameCube.
WarioWare GameCube, c'est délirant, et donc il y a des modes party qui sont absolument à se chier dessus de rire, parce que finalement, vous enchaînez des trucs que vous comprenez à peine, à une vitesse hallucinante.
Alors, quand on dit trucs qu'on comprend pas, c'est genre épiler une statue grecque, déboucher un nez, ce genre de conneries.
Voilà, ça déroulait le PQ, donc il y a écrit juste dérouler à l'écran. Et puis toi, tu t'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Et tu commences à dérouler frénétiquement le PQ, parce qu'en une seconde, il faut que tu l'aies fait, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de truc absolument débile, donc je trouve ça à mourir de rire, mais effectivement, c'est une stance, on va dire ça comme ça.
On parlait des délires de Souda.
Là, ils sont très forts. Et alors, c'est la même sauce avec des jeux inédits. La grande nouveauté de cet épisode, au-delà du fait que ce coup-ci, ça parle. Donc, t'as une petite voix off, tu vois, de ton déroulé. T'as une petite voix off qui va te gueuler dessus, déroulé, quand le jeu va apparaître, quoi.
Putain, il faut absolument mettre le jeu en japonais, je pense que ça doit être absolument à se chier dessus
de rire. Putain, il faut que je regarde si ça peut...
Il faut le faire.
Je regarde si on peut garder le texte et changer les voix, ça je sais pas.
Ayatobohachi. Ça ressemble... Enfin, pour les gens qui connaissent, je sais pas si vous vous rappelez le château... Merde, comment ça s'appelait Takeshi's Castle.
Ah, le jeu le plus con du monde.
Mais en fait, WarioWare, ça ressemble... Moi, ça me fait penser automatiquement à ça. C'est-à-dire un truc qui est tellement con que ça ne peut être que japonais.
C'est ça. Et bon, bref, donc du coup, dans cet épisode-là, la grosse particularité, c'est que tu vas jouer en fait plein de personnages donc, de l'univers WarioWare et qui vont se débloquer au fur et à mesure d'un mode histoire. Et chacun de ces personnages a un gameplay particulier. Donc, typiquement, enfin, par exemple, Wario, tu le déplaces au joystick comme tu veux librement et le bouton, parce que c'est One Button Game, ça va le faire dasher. Tu as un autre personnage, les Sœurs Ninja. Donc quand tu joues tout seul, tu en contrôles que une et elle ne peut. Elle saute en permanence et tu ne peux que la déplacer. Et quand tu appuies sur le bouton, elle tire un shuriken vers la droite. Si tu joues à deux joueurs, l'autre joueur, il a le même personnage mais en inversé. Donc il va sauter sans arrêt et puis il tire à gauche.
Oh putain.
T'as un autre personnage, donc il est dans une soucoupe volante, tu peux le déplacer n'importe où et le bouton il va servir à tracter en dessous de la soucoupe. Tu as un personnage qui ne bouge pas et au joystick en fait tu peux simplement déplacer une ligne de tir et avec le bouton ça tire un frisbee dans la direction que tu vises. Enfin voilà, chaque perso, il y en a même un qui est en commande inversée, ça c'est à mourir de rire aussi.
Oh mon dieu, quelle horreur.
Oh mon dieu, c'est le truc, tu sens le truc foireux possible.
Et alors du coup, tu vois, autant l'ancienne recette c'était comprendre ce qu'il faut faire et le faire, là c'est comprendre ce qu'il faut faire, comment je peux le faire et le faire.
Ça rajoute un niveau.
C'est génial, en fait. C'est génial.
Mais je n'en doute pas. Alors, on va s'arrêter là parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est un jeu qu'il faut vivre.
Il y a une démo, qui est dispo. Voilà. Dans la démo, il y a 6 personnages qui sont débloquables et ça donne déjà un bon aperçu de toutes les conneries qu'ils ont pu imaginer. Et le génie du truc, ça c'est Tardy qui le disait. Donc, il y a, je crois, 200 micro-jeux, appelons-les comme ça. Ils sont tous faisables avec tous les persos.
Oh putain!
Il y en a certains. En fonction des combinaisons, ça va être plus difficile que d'autres. Donc toi, typiquement, quand t'es dans un mode infini où t'as choisi d'enchaîner tous les personnages en random, quand tu vas tomber avec un certain personnage sur un certain micro-jeu, tu vas dire « Putain, le jeu me déteste !» Mais c'est faisable.
Oui. Ok, donc on va enchaîner avec le DLC de Pokémon Bit et Couteau.
Ah oui, donc ça c'était moi aussi.
C'était toi aussi.
Ouais, c'était moi aussi. Alors, DLC en deux parties. La première partie, pour les deux DLC, ils se passent en monde ouvert façon Terre Sauvage, mais comme si l'équipe de dev avait eu le temps de finir de ce qu'ils voulaient faire. Donc il y a
le Pokémon, level.
Voilà, le level design est mieux. Il y a plus de choses, il y a plus de détails, il y a plus de trucs. Après, tu restes quand même à rager sur le fait qu'avec ton putain de vélo, tu peux pas passer une marche d'escalier. Il faut faire le tour qui a été prévu. Hein. Tu peux pas sauter les petits murets. Ça marche plutôt bien. Les deux petits mondes ouverts qu'ils ont fait. Ça m'augure du bon pour le prochain, pour le Arceus là qui sort fin janvier, si je dis pas de conneries. Et autant le premier, il y a un scénar à la Pokémon.
Ah là là, oui.
Voilà.
Tu as 10 ans, eh bien écoute, va élever des chiens sauvages et te battre dans la rue.
Ouais, bon, ce coup-ci, c'est un ours. Bref, il est un peu.
Ça se passe en Russie, donc.
Il est un peu con-con. Autant le deuxième est très sympa. Parce que le deuxième, qui a 4 scénarios qui vont s'entrecroiser, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, et il est très très axé Pokémon légendaire. Donc voilà, ça va brasser un peu de folklore, systématiquement tu vas être récompensé plutôt facilement avec un Pokémon assez rare. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est le principe donc de raid. Ils appellent ça donc pas de raid, parce que les raids Dynamax, on les a déjà dans le jeu de base. Là, ça va être de l'expédition Dynamax, où en gros tu vas enchaîner plusieurs raids, et petit feeling MMO, là où c'est très sympa, c'est quand tu les fais à plusieurs pour arriver en fait à 100 communications, parce qu'on est sur Switch, avec ton équipe à essayer de coordonner une stratégie pour arriver au boss de fin de ton expédition qui est systématiquement un légendaire qui, une fois que tu as réussi à le tomber, a un taux de capture de 100%.
D'accord, donc t'as un vrai intérêt en plus à aller le chercher, quoi.
C'est ça. Donc voilà, il est sympa, il y a un bon délire, il me paraît plus fini que le jeu de base. Le monde ouvert est mieux, les animations sont mieux, tout est mieux, ça augure du bon pour la suite.
Très bien, on va enchaîner avec Skyward Sword, puisque c'était le jeu qui est sorti pour mon anniversaire. Merci Nintendo. Je me suis senti spécial ce jour-là. Voilà, alors le remake... On se rendait pas compte à quel point le stick droit nous manquait beaucoup sur Wii, finalement.
Oh putain, oui. C'est clair.
Alors, autant, c'est pas quelque chose que je trouvais choquant à l'époque d'avoir un bouton qui te remet juste la caméra derrière toi. Finalement, c'est ce qu'on avait dans Ocarina of Time, c'est ce qu'on avait dans...
On devait le spammer.
Bah, on le spammait, oui. Moi, j'avais tendance à appuyer dessus. Bah, quand tu rejouais à Ocarina of Time, t'as tendance à appuyer dessus très souvent, en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais le truc c'est que la caméra automatique est pas si mauvaise que ça, faut pas exagérer, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir tout d'un coup la possibilité de jouer à la manette avec un stick droit, ça change les choses.
Alors tu l'as fait au motion ?
Alors je l'ai pas fini, je n'ai fait que la grosse première partie, c'était vraiment surtout pour avoir un bon aperçu du gameplay. Après le jeu, je le connais malheureusement, donc je sais qu'il y a plein de choses à faire et qu'il reste des défauts inhérents à ce jeu-là qui ne changeront pas, notamment le fait qu'on refasse
la répétitivité.
Voilà. Alors, moi je dis que c'est pas si terrible que ça parce que finalement les zones changent au fur et à mesure, on a des nouvelles capacités, ça ressemble un petit peu quand même à Metroid-like, même si c'est un peu sur les rails.
C'est ça, pour les gens qui le connaissent pas, typiquement la forêt, on va la visiter 3 fois, mais il y a une des fois où elle sera complètement inondée et du coup c'est un autre niveau différent.
Oui, voilà, c'est-à-dire que. Là, à la limite, c'est la troisième fois où tu le fais, où là, c'est un peu...
Ouais, tu dis putain encore.
Voilà. Maintenant, il y a d'excellentes idées dedans, et ça reste. Il y a une musique qui est exceptionnelle. Et alors, je tiens à souligner le fait qu'on a un mixage 5.1, mais alors au poil de fion.
Ah ouais ?
Ah oui, et ça, sur Switch, ça fait plaisir, parce que des mixages 5.1 merdiques, on s'en est tapé quand même un certain nombre. Je ne citerai pas de nom. Assassin's Creed. des mixages 5.1 de merde sur Switch, on s'en tape quand même un certain nombre, ce qui n'est pas le cas sur notamment Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X, où en général les mixages 5.1 sont bien meilleurs. Là, on a vraiment un mixage 5.1 exceptionnel, une musique. Mais alors, mon Dieu,
elle est classe. Hein.
Elle envoie du gros pâté.
T'as vu, la musique a énormément de place dans cet épisode, une fois encore.
Exactement. Il y a d'excellentes mécaniques de jeu et il y a des petits ajustements. C'est aussi pour ça que tu repasses à la caisse. Alors, pourrait considérer que c'est un poil cher. Moi, j'aurais bien vu, comme on avait tous vu finalement, un Zelda trilogie, quoi, façon Mario, Mario All-Star, voilà, un Zelda All-Star où on aurait eu Twilight Princess HD portée de la Wii U, Wind Waker portée de la Wii U et Skyward Sword portée de la Switch. C'était pas totalement déconnant. Voilà, ça aurait vraiment été sympa. Là, je trouve qu'effectivement, le package est peut-être un poil cher, mais ces petites améliorations de la vie quotidienne, les petites améliorations de gameplay font du bien. Et bah, ça marche, je trouve. Alors, j'ai pas fini le jeu parce que.
J'ai fini pour le coup.
Voilà, mais ça marche très bien.
Ça marche super bien, je l'ai fait entièrement au motion. Et pour le coup, la caméra est toujours sur le stick droit. J'ai pas une seule fois essayé à la manette fixe. Et du coup, il faut une combinaison de touches, c'est ça, pour que le stick droit soit active la caméra.
Okay. En fait, le stick par défaut est vraiment ta main, donc tu peux un peu plus. Alors, la version Wii a jamais été vraiment imprécise. Ça marchait plutôt bien dans 99% des cas. Évidemment, t'avais toujours des edge cases un peu à la con dans lequel t'y arrivais pas, mais globalement, ça marchait très bien.
Ouais, surtout sur le coup des stocks. Enfin, là, c'est pareil.
Oui, là, c'est un peu pareil. Là, quand t'es au stick, par contre, c'est 100% de réussite, quoi, obligatoirement. Tu te rates rarement. Et donc, par contre, quand tu joues à la manette, il faut que tu maintiennes, alors, je sais plus si c'est L ou R, pour avoir le stick droit qui agit comme un stick droit, c'est-à-dire qu'il bouge la caméra. Le seul truc que moi je trouve un tout petit peu dommage, c'est que j'apprécierais d'avoir une option dans le menu qui permette d'inverser ça. C'est-à-dire de dire, quand je maintiens R, c'est que je veux utiliser le stick droit pour manipuler l'épée, et quand je le maintiens pas, c'est que je veux utiliser la caméra. C'est vraiment le seul truc que j'aurais à lui reprocher, de ce point de vue-là.
Ok. Mais pour le coup, tu vois, la transposition qu'ils ont fait sur les Joy-Con marche très bien. Elle marche très bien. Par contre, tu vas être régulièrement amené à recentrer le giro. Donc, il y a un bouton qui est dédié à ça.
Et... Y, c'est ça ?
Ouais,
Y. Ou X ou un truc comme ça.
Il me semble, Y. Et au début, ça surprend. Ça surprend moins si tu as refait Mario Galaxy.
Oui, il faut le faire régulièrement.
Si, comme moi, voilà, t'as fait le Pikmin 3, tu l'as fait au giro pour gérer le pointeur. Où il y a le même problème, en fait. Régulièrement, il faut recentrer le pointeur. Et sur ce Skyward Sword, ça devient un réflexe. C'est-à-dire quand tu vas pour sortir ton arc, au bout d'un moment, tu as le réflexe de recentrer avant de sortir l'arc.
Oui, ce qui est à mon avis de toute façon préférable. Mais du coup, c'est là que tu vois tout l'apport de la Wii, le fait d'avoir un vrai pointeur.
Ouais.
Là, effectivement, c'est une émulation de pointeur. Puisque c'est basé sur les mouvements, donc c'est forcément un peu moins précis.
Mais c'est ça, vraiment. Si vous voulez faire l'essai, vous secouez votre Joy-Con, vous lui faites faire un 8 et vous le posez. Et vous allez voir le pointeur qui va décaler légèrement vers la droite. Putain, c'est un gyro-drift. Incroyable.
Ils y ont tout inventé. Le gyro-drift. Voilà, bref, donc, à titre personnel, moi j'ai bien aimé Skyward Sword. Je fais partie des gens qui n'avaient pas forcément énormément apprécié Twilight Princess, qui savent lui reconnaître ses qualités, mais qui voient aussi ses limites. Par contre, j'avais bien aimé Skyward Sword. C'est vrai que c'est le dernier Zelda 3D traditionnel, finalement.
Tu sens en le refaisant qu'il commençait à tenter des trucs. C'est l'apparition de la jauge d'endurance.
Il y a des bouts de trucs, mais voilà, ça reste. Aujourd'hui, on peut vraiment parler
du craft.
Oui, du craft, effectivement, avec les marchands et tout ça, où t'as des petites choses intéressantes, les objets et tout ça. Mais voilà, t'as vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que t'as trois grandes périodes dans Zelda. T'as la période 2D vue du dessus, finalement. Si on fait un tout petit peu exception de Zelda 2, mais même lui, en fait, il a un peu cet ADN-là. T'as la période 3D Ocarina of Time, où finalement tous les jeux sont moulés sur Ocarina of Time, jusqu'à celui-ci qui. Je vais pas dire amène la formule à son maximum, je pense que le maximum c'était plus Twilight Princess en l'occurrence. Mais qui essaye des choses effectivement différentes.
Ouais, ça, t'as lui qui essayait, puis t'as Link Between Worlds qui commence à vraiment secouer la formule.
Voilà.
Et encore, Link Between Worlds c'était un petit peu timide parce que c'était du pré-item, donc au final, t'avais pas trop de surprises.
Ouais, non, mais c'était le fait que t'aies direct tous les items depuis le début. Ça me rappelle. Jusque-là, la formule, c'était l'item du donjon sert à buter le boss du donjon.
Oui.
Et c'était, je crois, dans un Player One, ou un Joypad, je sais plus, où j'avais vu un dessin qui m'est tué de rire, où t'as Link qui est dans un donjon, il ouvre un coffre, il y a un décapsuleur, il comprend pas, et le boss, c'est une bouteille de bière.
C'est exactement ça. Et je pense que la caricature poussée à l'extrême de ce truc-là, c'est Twilight Princess, où t'as même des objets qui ne servent que dans le donjon dans lequel tu es.
Réponds et toupie.
Oui, voilà, c'est
meilleur, meilleur objet de l'histoire, mais l'espace de 30 minutes.
C'est ça. T'as des énigmes exceptionnelles, t'as du design de donjons vraiment super sympa, et ça ne sert qu'une fois. Ouais. Alors voilà, Skyward Sword, je trouve que les designs de donjons sont vraiment très très bons. Je pense notamment à tout ce qui concerne les zones temporelles et autres qui sont vraiment un délire.
Celui-là, je crois que c'est sur Seven, dont on ne dira jamais assez de bien, qui m'a appris que le donjon, tu sais, qui commence avec un fil d'araignée. C'était une espèce de grosse statue de Bouddha, il y a une toile d'araignée qui passe dans une flaque d'eau, et t'as une partie en dessous qui en gros représente l'enfer.
Oui.
Tout ça est basé sur une légende bouddhiste.
Ah oui. Tout à fait. Tout à fait, Thierry.
Mais c'est très bien foutu, il y a vraiment plein de donjons très bien foutus, donc voilà. Skyward Sword, pas une mauvaise pioche, loin de là. Un très bon remake, techniquement ça tient la route, et en fait la DA fait que ça a pas tellement vieilli, et que si le jeu sortait tel quel en 2021, bah c'est pas choquant.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux parler de Faye?
Alors.
Oui, maître. Attention, maître. Il est déjà 22h30.
C'est vrai, en plus. Je vais juste dire que Faye est désactivable.
Bah, elle est désactivée par défaut, en fait.
Alors non, techniquement, elle n'est pas désactivée par défaut. Ce qui est désactivé par défaut, c'est tous les PNJ qui t'interrompent. Ça, oui. Par rapport à la version Wii. Dans lequel, en fait, les PNJ, surtout au début du jeu, en fait, c'était surtout ça qui était assez pénible. En fait, tu croisais des PNJ qui te parlaient sans que tu puisses, sans que tu le choisisses.
Ok.
Et ça, c'était très pénible. Là, ça, c'est désactivé par défaut. Maintenant, ils ont une petite bulle au-dessus de la tête qui dit, bah, tu veux venir me parler, viens me parler. Ce qui est mieux. T'as plein de petits détails comme ça, notamment, tu sais, quand tu ramassais un objet. Ah, tu ramassais un rubis bleu ? Oui, merci.
Oui, non, là, tu l'as qu'une fois.
Voilà. Et donc, oui, fait, en fait, je crois pas qu'elle est désactivée par défaut, mais en fait, tu peux, comme dans Bubsy, régler le taux de dialogue en fait, que tu as avec elle. Donc, tu peux dire que tu veux beaucoup d'aide ou tu peux dire que tu veux beaucoup moins d'aide.
Ok, parce que par défaut, le souvenir que j'en avais sur Wii, c'était que systématiquement, elle te pétait les couilles en te disant « Oh putain, on vient de rentrer dans telle salle, il y a tel truc qui brille au fond, il faut y aller ». Oui, connasse, je viens de le voir dans la cinématique.
Oui, c'est peut-être un tout petit peu exagéré.
Ouais, on parlait beaucoup de Navi qui interrompait tout le temps le joueur dans Ocarina of Time, mais c'est vrai que Faye, il y a des moments, elle te prenait vraiment par la main dans un jeu qui te prend déjà pas mal par la main, on va pas se mentir.
Ouais, ça c'est clair. Disons qu'il y a... Ce que je trouvais dommage avec Faye, en fait, c'est que finalement, sur le début du jeu, je trouvais pas ça très choquant, parce qu'il y avait pas mal de mécaniques à assimiler.
T'as un tuto, oui.
Bah, voilà. La mécanique des combats nécessitait quand même. C'est une nouvelle façon de contrôler Link dans Skyward Sword avec le motion et même juste les mouvements. Parce qu'on perdait pas mal. Enfin, il y a la jauge d'endurance, ce genre de choses.
Il y avait quand même suffisamment de nouveautés, notamment le craft et tout ça, qui pour moi justifiait le fait que tu aies effectivement une Navi un poil plus lourde, au moins au début du jeu. Ce que je trouvais plus gênant avec Faye, c'est que Navi en fait te donner des indices quand tu les demandais. C'est-à-dire que Navi, elle allait vers un truc, elle s'allumait en bleu, t'appuyais sur le bouton du haut, elle te disait « Ah, on dirait que cette boule d'araignée pourrait peut-être brûler si on y mettait le feu. »
Et c'est ce qu'on a maintenant par défaut, pour moi.
Voilà. Le truc, c'est que Faye te disait tout de suite, hey, « Eh, regarde, tu peux brûler ça. » Et c'était un peu chiant. Et là, maintenant, tu peux
elle
vraiment...
Elle clignote, et tu voilà. l'appelles ou pas.
Mais il y a... Je suis désolé, sur la fin de Skyward Sword sur Wii, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ce que je trouvais dommage avec Faye, en fait, c'est que surtout, elle te gâchait, dans certains cas, certaines mécaniques de donjon en te disant, « Eh, tu pourrais peut-être tirer par cette fenêtre pour atteindre ce truc-là. »
Ah, le bateau.
Oui, notamment. Et oui. C'est un peu dommage parce qu'en fait, tu pouvais t'en rendre compte tout seul, vraiment sans problème. Et ça, c'est un peu con. Maintenant, pour moi, c'était utile au début du jeu et vers la fin du jeu, c'était déjà nettement moins présent, en fait. Donc, je pense que les gens sont restés sur cette impression du premier tiers du jeu où elle est vraiment extrêmement présente. Alors qu'en réalité, effectivement, après le premier tiers, elle est déjà nettement moins casse-couille. Voilà, c'est vraiment. Et alors c'est peut-être une impression, mais bon. Donc fait Ballbuster édition, donc qui est moins casse-couille. Alors peut-être par défaut, du coup, j'ai pas bien fait attention parce que. Finalement...
Non, il me semble que par défaut, elle. Ou alors voilà, comme tu dis, c'est un biais et puis elle m'a moins gêné que la première fois. Je sais pas.
Ouais, ou alors simplement tu l'as désactivée parce que je me demande si tu peux pas la désactiver au premier dialogue ou un truc comme ça où tu dis, elle te dit. Genre, est-ce que maître, est-ce que vous voulez que je vous informe régulièrement et tu peux dire oui, non, peut-être, un truc comme ça.
Peut-être. Ouais.
Bref, on va finir par deux trucs, par les bonus qui ne sont pas sur Switch, qu'on va essayer de faire un petit peu vite, parce qu'effectivement, maître, il est 22h35. Command & Conquer Remake Collection, qui nous a été amené par Zergy.
Oui, pas grand chose à dire, c'est un bon remake. Pour 20 balles, vous avez le premier Command & Conquer Tiberium, Alerte Rouge, leurs extensions, les missions qui étaient exclues console. Le seul petit défaut, c'est l'IA et le pathfinding qui sont d'époque.
Alors, il me semble d'ailleurs que le jeu... Alors,
non, vous avez la bande originale et des musiques remasterisées. Mais bien sûr, les graphismes sont remasterisés et on peut aussi switcher sur les graphismes originaux.
Yes, ça c'est génial. Et t'as aussi les making-of des vidéos. Ça c'est cool à regarder.
Et il me semble que Electronic Arts a là aussi lâché le code source du jeu.
Oui. En fait, le mec qui s'est occupé de ça chez EA, c'était un gros fan de la série, et je pense que Electronic Arts s'est dit, bon, on s'en fout, c'est un petit projet, on lui met pas de bâton dans les roues à faire des DLC et compagnie, il fait ce qu'il veut.
Et c'est une excellente idée, monsieur EA, de temps en temps, de laisser un peu de liberté aux gens, surtout sur les trucs où, effectivement, c'est pas des projets avec des gros enjeux, je veux dire, c'est que du bonus.
En même temps, je pense qu'ils ont dû se rendre compte que les fans de CNC, ils étaient sur le point de se suicider. Ils se sont dit, bon, faut un peu les brosser dans le sens du poil.
C'est possible.
Il est pas super cher, en plus.
Oui, 20 balles.
C'est les anciens de Westwood qui sont occupés du jeu, en fait.
Ah, putain, ça fait plaisir, ça.
C'est les pétroglyphes.
D'accord. Ça fait très, très plaisir. Parce qu'effectivement, il y a quand même du gros derrière ce remake, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quand même un petit peu de taf. Il y a effectivement le code source qui est disponible, donc on peut aller analyser notamment l'IA du jeu. Apparemment, il y a des choses très intéressantes à y voir. Je vous invite à regarder AI and Games, alors qui malheureusement est fait par un monsieur qui est écossais, donc il y a un accent qui est très difficile à comprendre, mais quand on n'a pas l'habitude. Mais qui a fait tout un truc justement sur l'IA de Command & Conquer, et comme on a exactement le code source, c'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, moi je ne connaissais que Soleil de Tiberium en fait, comme.
C'est le deuxième celui-là.
Ah, ouais, c'est le deuxième de la série Tiberium. Il est gratos, hein, pour ceux qui veulent essayer.
Voilà.
Oh.
Donc, vraiment, si vous avez un PC qui est capable de le faire tourner, allez-y. Je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout si vous ne connaissez pas.
Ouais, la config est pas très élevée non plus. Hein. Moi j'ai. Oui. Mes PC, ils ont quelques années, ils ont 5 ans, ils arrivent à le faire tourner.
Oui, bah de toute façon, c'est pas très étonnant. Hein. C'est. Il n'y a même pas de 3D en fait, même dans la partie remake, il est en
2D. Non, que dalle, c'est que de la 2D.
Donc ça devrait tourner comme à l'époque. Et enfin, nous avons Tales of Arise, qui va sortir sur Switch, me semble-t-il.
Non, je crois pas.
Oh
ouais, il est à 30 FPS sur PS4.
Après, on sait pas, IS9 est bien sorti.
Ouais, alors, pour le coup, IS9, il n'est pas aussi beau.
Oui, bon...
Oui, mais parlons gameplay.
Alors, crache ton venin, vas-y.
Non, j'adore Tales of Arise. Probablement... Franchement, je m'attendais pas... J'avais testé la démo, j'ai fait... Le gameplay est cool. On sent l'influence de Dark Souls et The Witcher sur les équipes de Bandai.
Oh, merde.
Bah, en fait, le héros, il a deux épées différentes. Et en termes d'esthétique, il y a quand même très inspiré... Enfin, c'est pas très inspiré, mais on sent qu'il y a un côté un peu plus occidental dans le design. que ce soit des monstres, des personnages, des décors. Et c'est un jeu, contrairement aux épisodes précédents, qui est beaucoup plus de Tales of, qui est beaucoup plus basé sur les esquives. Dans le sens où t'es récompensé quand tu fais des esquives par une très bonne contre-attaque, voire pour certains personnages, tu fais des meilleurs coups. Donc c'est là où on peut jouer à côté Dark Souls.
Ok.
Mais ça reste un Tales of, avec parfois ces facilités de scénario et de personnage qu'on a l'impression d'issue de tous les clichés d'anime possibles et imaginables. Mais c'est beaucoup mieux rythmé que ce qu'il y a eu avant, c'est très joli. Ça se joue très très bien. Je trouve les combats vraiment super sympas. Et ils vont très vite. Quand tu rencontres un contact à l'ennemi, ça charge très très vite. Et il n'y a plus d'écran de victoire comme avant. Il te remet directement sur la map avec. Il t'affiche que tu as gagné pendant que tu es en train de te déplacer. Donc tu gagnes pas mal de temps. C'est beaucoup plus fluide. Tu as beaucoup d'éléments de qualité de vie. Typiquement, il t'indique, t'as un voyage rapide avec les différentes listes des lieux où tu peux aller, et il t'indique en fait s'il y a des quêtes sur ce lieu ou pas, comme ça t'as pas besoin d'aller chercher à chaque fois.
C'est cool ça.
C'est très très chouette, et le scénario est très très bien rythmé. C'est une histoire de deux mondes qui s'affrontent comme très souvent dans Tales of, et on va devoir mener la révolution parmi les peuples qui sont opprimés en allant tuer les 5 seigneurs du camp d'en face. Et en fait, on se rend compte qu'après 10 heures de jeu, on a déjà tué 2. Donc, ça va vite. Et c'est plutôt chouette.
Ouais, tu auras un twist ou une connerie comme ça, non ?
Il y aura sûrement un twist à un moment, vu que ton personnage est amnésique.
Alors, est-ce que les animaux de la forêt sont devenus fous et qu'il y a un petit garçon qui s'est perdu dans une cave ?
Alors, non. Peut-être
les animaux sont perdus dans une cave et le petit garçon est devenu fou.
Très bien.
Par contre, ce qui est assez chouette, c'est que tu commences pas dans le petit village sympa, non, t'es directement esclave dans le monde de la lave.
Oh putain, oui d'accord, donc c'est Dark Souls.
C'est une très bonne entrée en matière. Non, vraiment, le jeu est chouette. Je recommande, si vous avez un PC, une PS4, une PS5, une Xbox, je sais pas si ça sortira sur Switch, mais je pense pas. C'est très cool.
D'accord, eh bien écoutez, on va conclure cette émission ici, parce que ça a duré, comme d'habitude, beaucoup trop longtemps, mais c'était l'émission de rentrée, c'est pas très étonnant. Dans 2 semaines, nous parlerons du Nintendo Direct de demain soir, vous pouvez nous remercier.
Après-demain.
Donc on parlera de ce Nintendo Direct, s'il y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Nous parlerons également de GameCube, puisque c'était l'été de la GameCube, c'était l'anniversaire de la GameCube, c'est une console qui me tient énormément à cœur, donc je voudrais bien en parler.
Et moi aussi.
Viens, ils annoncent la GameCube sur le online de Switch.
Ah, ici, ils annoncent la GameCube Mini.
Oh, la GameCube. Ouf.
Ça parle des rumeurs qui parleraient de N64 Mini, online d'abord. Mini. Il y avait la Game Boy. Non, mais il y a enfin, en tout cas de service
oui,
en ligne
sur
64.
Online, hein. Je ne serais pas très étonné.
Bon, après 64, on va pas se mentir, ça risque d'être un petit peu pauvre en termes de jeu vu qu'il n'y a plus les jeux rares.
Ouais, ça va être vite fait. Hein.
Bon, s'il y a juste Super Mario 64,
quelques. Encore lignes.
Bah écoute, franchement, avec une quinzaine de jeux, tu fais un N64 Online qui marche bien. Hein.
Oui, bah après, t'auras Zelda 1 et 2, t'auras la 12 milliards de spin-off de Mario.
T'auras des Mario Party, les meilleurs. Mario
oui,
Party, Mario Tennis, Mario Golf.
Mario Kart 64.
Mario Kart 64.
Light Wars.
Pas Diddy Kong Racing, du coup.
Ah. Ouais, il y a des licences rares dedans.
Je sais pas comment ils sont séparés ça.
Il y aura peut-être Donkey Kong 64, dommage, c'était pas vraiment le meilleur jeu de Rareware.
Non mais voilà, mais après, t'auras pas GoldenEye, donc de toute façon, voilà.
Mais c'est vrai qu'une un Switch Online GameCube, ce serait pas dégueu.
Ouais,
et je pense qu'en fait, c'est plus facile à remaster que de jeux 64.
C'est possible, c'est peut-être plus facile à émuler en fait, surtout, parce que voilà. Mais Nintendo l'a déjà démontré, puisque sur le Super Mario All-Stars, il y avait... Il y avait quand même Mario Sunshine qui était en version à moitié émulée, à moitié, moitié refait.
16/9e lycée.
Bah, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a tous les appels OpenGL, enfin tous les appels de la GameCube qui étaient retraduits avec un module Dalvik au milieu pour pouvoir refaire. Enfin, c'est assez bien foutu, en fait, leur système. Hein. C'est-à-dire que finalement, t'es sur de la 3D qui est quand même relativement moderne sur GameCube. Je suis désolé, je fais une parenthèse alors que j'avais dit que c'était la fin de l'émission. Mais c'est pas grave.
Il est pas mal l'émulateur, hein. Il est français.
Le plus, c'est qu'il a été fait par Nerd, donc à Poissy, hein, je rappelle.
Pas sur là.
Donc, enfin, en tout cas, il y a de bonnes chances. Et donc oui, c'est leur truc est pas mal, parce que finalement, ils convertissent les appels qui étaient faits à l'origine sur Flipper, qui était donc le GPU.
Un dauphin.
La GameCube, qui était effectivement un dauphin.
Et là, la Dolphin, on a tout se croise. Voilà.
Tout s'enchaîne, nous sachons. Voilà, et donc ils convertissent à la volée ces trucs-là en Vulkan, donc les appels Switch. Donc en réalité, leur émulation, elle marche super bien. Hein. C'est vraiment, ils ont finalement des appels 3D suffisamment modernes pour pouvoir les émuler, enfin pas les émuler, mais les convertir sans avoir besoin de les émuler. Contrairement à la N64 où il faut vraiment émuler la partie RCP-RDP qui est assez complexe. Peut-être qu'un jour je ferai un article pour expliquer comment ça marche ce truc-là. Comment on fait pour faire de la 3D sur N64, parce que finalement c'est très compliqué. En réalité, ça a l'air
c'est de la matérialisation de brouillard.
C'est presque ça.
C'était l'invention du cloud.
Cloud gaming avant l'heure, la N64.
Parfait. Voilà, bref, donc on parlera de ça. Et normalement, dans un mois, puisque le planning est vraiment calé au poil de fion, hein, sur les
Metroid,
où on parlera.
Ouais, à la base, c'était ça le projet. Hein. C'est connard, quoi, putain.
On parlera de Mercury Steam.
Au moins, on parlera de Metroid après y avoir joué. Hein. Et probablement l'avoir fini.
Donc, on parlera un peu de Mercury Steam, on parlera de Metroid Dread. On ne fera pas de rétrospective parce qu'on a déjà fait une émission rétrospective. Et on parlera probablement de Switch OLED aussi, puisque je l'ai commandé.
Et voilà. On tacle probablement Metroid Over M.
Arrêtez de lui taper dessus. Bref, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans deux semaines, dans une semaine en podcast. Bisous, ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Bisous.